Et bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette émission Backseat spéciale anniversaire des 130 ans de la CGT. Merci le public, merci, vous êtes incroyables. Bonsoir à toutes et à tous. Ici, devant la mairie de Montreuil, on est sur le parvis de la mairie de Montreuil jusqu'à 19h fin ensemble. On remerciera jamais assez la CGT de nous permettre de rendre cette émission possible. Pendant 2 heures, on va fêter ensemble dignement l'anniversaire de la CGT. On va revenir sur la grande et longue histoire de ce syndicat, ses moments fondateurs, ses grandes luttes et ses personnalités. On va aussi parler de son avenir. On va s'interroger sur le regard que portent les plus jeunes sur le fait syndical et sur la CGT. Et avec nos chroniqueurs, on va parler des grandes actus sociales de ces dernières semaines. Notre invitée politique cette semaine, ce sera Sophie Binet, qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Allez, je vous propose qu'on commence avec les 130 ans de la CGT, 130 ans d'histoire de la CGT. On va se plonger ensemble dans cette histoire avec un plateau exceptionnel. J'ai le plaisir d'être avec, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maryse Dumas.
Bonsoir.
Maryse Dumas, tu es membre du bureau de l'Institut de l'Histoire Sociale de la CGT. Est-ce que je peux te demander d'expliquer à nos spectateurs ce que c'est ?
Alors, c'est un institut qui a été créé par Georges Segui, ancien secrétaire général de la CGT, lorsqu'il a quitté le secrétariat général, et qui a pour caractéristique de faire travailler ensemble sur l'histoire sociale des militants et des militantes d'un côté, des universitaires de l'autre. Et ce petit monde qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, là, travaille sur des sujets historiques. Et nous découvrons absolument les uns des autres. C'est-à-dire que les militants et les militantes apprennent énormément de choses théoriques de la part des universitaires. Et je crois, j'ai la faiblesse de penser, que les universitaires apprennent aussi de l'expérience militante qui est la nôtre.
Depuis combien de temps existe cet institut ?
Pardon ?
Depuis combien de temps il existe cet institut ?
Depuis 1982.
Depuis 1982, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être parmi nous. On va avoir besoin de toi, Maryse, pour parler de l'histoire de la CGT. On va aussi avoir besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour Bolchevik. Bolchevik, on te connaît sous le nom Bolchevik. C'est le nom de ta chaîne YouTube qui aborde la culture populaire sous les angles artistiques, sociaux et politiques. Toi, l'histoire de la CGT, tu la connais bien. Il paraît même que tu vas tourner une série de vidéos avec la CGT.
Oui, cet été, là. Alors c'est encore en cours de production, mais pour les 130 ans, on va faire une série de vidéos en même temps que le Tour de France, où il y aura à chaque étape du Tour de France des luttes qui vont être mises en avant, puisque un des travaux qui a été fait pour les 130 ans, c'est de mettre en avant 130 luttes, mais pas forcément les plus connues et les plus grandes, c'est-à-dire voilà, le Front Populaire ou mai 68, mais des luttes aussi qui ont été menées par des gens de la CGT localement à différents endroits, dans différents types d'industries, de services, avec beaucoup de thématiques différentes. Donc on va essayer d'en mettre en valeur une vingtaine comme ça dans des vidéos cet été.
Eh ben merci. Comment est-ce que le syndicalisme est représenté dans la culture populaire ? Il y a peut-être des différences entre les pays aussi, non ?
Oui, alors après c'est une vaste un petit peu question, mais il y a eu en France, il y a eu une tradition de représenter le syndicalisme dans la culture populaire. Il y a même eu une période où la CGT elle-même coproduisait des films, et puis pas des films juste en interne, hein, genre La Marseillaise de Jean Renoir, qui est un film de la période un peu justement Front Populaire. Il
c'est
a été coproduit par la CGT. La CGT était très impliquée dans le cinéma, hein, de toute façon, parce que beaucoup de gens étaient syndiqués dans le cinéma là-dedans. Le Festival de Cannes, quand il a été repris en 46 à la Libération, ça a été fait beaucoup avec l'aide de la CGT. Donc il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de représentations. Ça a été aussi un peu le cas après 68, dans la Nouvelle Vague, où on représentait un peu des mouvements sociaux. Moi, j'ai tendance à trouver qu'il y a un petit déficit peut-être maintenant dans la culture populaire de représentation du syndicalisme, en tout cas en France, où on met assez peu en avant au cinéma soit des luttes fictives, soit des luttes historiques. On a la représentation du syndicaliste un peu satirique, façon caméra café, quoi, mais il y a pas tant que ça en France de ces dernières années, alors que dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, il y a quand même des films sur des grandes figures syndicales, genre Jimmy Hoffa ou des choses comme ça, alors qu'on n'a pas des films où il y a Krasuki ou des gens comme ça ou dans les cinémas tous les étés, quoi.
Merci beaucoup d'être avec nous, Bolchevik, pour parler
avec
de l'histoire de la CGT. On est également avec Aymeric Mougeot, mesdames et messieurs. Aymeric Mougeot, tu es délégué syndical et ingénieur chez ST Microélectronique, le leader européen des puces électroniques. Tu travailles sur le site de Kroll, près de Grenoble, et ton entreprise a annoncé il y a 2 mois la suppression de 1000 emplois en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un événement comme celui-là et la CGT ?
Alors, moi, en soi, je suis élu CSE plutôt que délégué syndical, mais ça change pas grand-chose.
Ah, autant pour moi.
T'inquiète. Mais on parlera sûrement un peu de ça. Moi, je suis par ailleurs à la commission confédérale qui s'occupe des questions de jeunesse. Donc pour nous, c'était vraiment un énorme enjeu de se réunir entre jeunes de la CGT pour discuter un peu de qu'est-ce qu'on veut pour notre organisation, pour le futur, pour s'organiser et gagner beaucoup de conquêtes sociales.
Merci d'être avec nous, Aymeric. On va parler de cette histoire de la CGT en grande date. On va commencer par une date, et pas la moins importante, le 27 septembre 1895. C'est à Limoges que la CGT naît. Maryse, est-ce que tu peux nous dire quel a été le bain de mobilisation, de lutte qui a donné naissance à la CGT ?
Alors, c'est... les syndicats ne sont autorisés qu'à partir de 1884. Donc, il commence à y avoir d'abord des syndicats de métiers, des syndicats d'entreprises, et assez rapidement se fait sentir le besoin de se coordonner, et notamment sous l'impulsion de travailleurs, de travailleuses, mais surtout de travailleurs, qui ont l'envie d'allier le syndicalisme du quotidien avec une visée de transformation de la société, une visée révolutionnaire, et donc ils ont besoin de se confédérer, c'est-à-dire de s'unir entre des syndicats de métiers ou d'entreprises d'une part, d'autre part la Fédération nationale des syndicats, qui est déjà une coordination, et enfin la Fédération des bourses du travail, qui elle est une organisation territoriale avec des bourses du travail qui aide les chômeurs à trouver du boulot, qui intervient aussi, qui essaye d'aider les travailleurs à se cultiver, à apprendre à lire, à écrire quelquefois, pour pouvoir trouver du boulot, etc. Et c'est cette conception totale du syndicalisme qui aboutit entre le revendicatif, se battre pour ses revendications, se battre pour changer le monde, mais en même temps être solidaire pour se rendre service, s'entraider. C'est tout ça qui fait la CGT en 1895.
Il y a aussi différentes conceptions du syndicalisme qui se sont réunies. À l'époque, c'était un vivier que j'imagine très foisonnant. Qu'est-ce qui les a poussés à se réunir ?
C'est l'idée que seul on est rien et qu'il faut s'unir pour faire face. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception de classe. C'est-à-dire la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. Pourquoi le travail ? C'est pour faire face au capital. Donc le capital est organisé, les employeurs sont organisés, il faut que les travailleurs s'organisent. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils se cultivent, il faut qu'ils se donnent les armes pour y arriver. On parlait du lien avec le cinéma tout à l'heure. Il faut savoir que les revendications dès le début de la CGT pour la loi de 8 heures, pour ne pas travailler plus de 8 heures par jour, l'argumentation c'est pour qu'on ait du temps pour se cultiver, pour apprendre, parce que, disait Fernand Pelloutier, l'ouvrier doit connaître la science de son malheur, c'est-à-dire il doit savoir pourquoi il est exploité,
c'est l'éducation
de façon
populaire
à trouver les moyens de surmonter cette exploitation.
Benjamin, toi tu viens de Limoges, qu'est-ce qui reste de cette histoire syndicale là-bas ?
Alors qu'il reste, ça a bien changé quand même, Limoges, mais Limoges effectivement historiquement, c'était la ville rouge, parce que c'était, je sais pas si c'est pour ça que ça a été choisi d'ailleurs pour le congrès de fondation, mais c'est une ville ouvrière, on connaît tous, bon évidemment tout le monde connaît la porcelaine, mais il y avait aussi les choses et tout. Donc il y avait une histoire ouvrière qui, malheureusement, ces industries-là, elles ne sont plus vraiment là. Donc ça reste dans la mémoire. Donc c'est la CGT, mais c'est aussi une terre de résistance. Parce que c'est aussi le Limousin, c'est aussi le Maquis, c'est aussi des campagnes qui étaient elles-mêmes très très engagées, très très résistantes. On disait ville rouge parce que à la Révolution, la Commune, Limoges était un petit peu de tous les bons plans. Donc ça reste en fait dans l'histoire en fait du lieu et c'est une terre de gauche. Aux dernières législatives, c'est d'ailleurs ça prouvait encore son statut de terre de gauche. Limoges elle-même, malheureusement, depuis quelques élections municipales, c'est plus le cas. Mais c'est dans la mémoire de tous les gens qui militent là-bas, quoi.
Aymeric, quelques années avant la naissance de la CGT, comme l'a rappelé Maryse, le syndicalisme était tout simplement interdit et même réprimé. Mais la répression syndicale, ça existe encore aujourd'hui. Tu peux nous en témoigner, toi ?
Oui, bien sûr, la répression syndicale, ça existe très clairement encore aujourd'hui. Y a des exemples dans énormément d'entreprises avec des camarades qui peuvent être licenciés, mais même moi, dans la boîte, on voit qu'on se retrouve avec des cas de discrimination syndicale régulièrement et heureusement, avec le collectif, on arrive à contrebalancer ça. Moi, je suis trésorier de mon syndicat. Je vois un peu quelles aides financières on fait. On a aidé plusieurs camarades à aller en justice pour démontrer la discrimination syndicale. Là, cette année, on a gagné encore 2 procès là-dessus. Parce que, en fait, on peut le combattre, la discrimination syndicale. Il faut juste être organisé et y mettre les moyens pour contrer le patron, même si c'est un patron qui souvent est assez puissant.
Et toi, dans ton entreprise, tu le constates aussi, cette répression syndicale ?
Ouais, totalement. Nous, là, j'ai encore deux camarades qui ont gagné en justice sur les questions de discrimination syndicale. Et la répression, c'est aussi des pressions sur dès qu'on mène une action. On était beaucoup sur le sujet de l'écologie. Ça, à l'époque, on y est toujours, mais on avait un gros enjeu il y a 2 ans. Et la direction estimait que c'était pas du tout un sujet syndical. Ils nous ont vraiment mis des bons bâtons dans les roues, ce qui ne nous a pas empêché de continuer le combat.
Ok. Je voudrais qu'on discute ensemble d'une autre date fondatrice, pas seulement pour la CGT et pour le syndicalisme, mais pour l'histoire des luttes sociales. C'est le 1er mai 1936, le printemps du Front populaire. Marie, je me tourne vers toi à nouveau. C'est quoi le contexte de cette manifestation, la fameuse et mythique manifestation du 1er mai 1936 ?
Alors, le 1er mai 1936, il est entre deux choses. Il est quelques mois avant, au mois de mars, s'est tenu le congrès de réunification de la CGT, puisque la CGT avait eu une scission qui a duré 15 ans. Et il y a eu une réunification au mois de mars qui a donné un élan considérable aux luttes. Et puis le 1er mai 1936, il se tient à l'avant-veille d'une élection dont on a su après qu'elle allait porter le Front populaire au pouvoir, c'est-à-dire l'alliance des partis de gauche. Et ces deux alliances, l'unité syndicale d'un côté, l'unité politique de l'autre, elles-mêmes, elles viennent de 1934, le Front antifasciste. C'est-à-dire qu'en 1934, il y a des ligues factieuses qui veulent prendre le pouvoir et les travailleurs s'organisent pour l'empêcher. Ça donne lieu à de puissantes manifestations en février 1934. Et l'unité entre les syndicats et l'unité entre les partis politiques de gauche se noue à ce moment-là et ça donnera en 1936, le Front populaire. Alors, le 1er mai 1936, il faut savoir qu'il n'était pas férié. Hein, c'est de le 1er mai n'est devenu férié qu'après la libération. Et donc, il y avait des appels à la grève. Mais la CGT ne croyait pas trop que la grève allait être forte. Ça se voit dans les mots d'ordre. Les appels aux manifestations sont tard le soir et pas dans la journée. Et puis, en fait, l'élan est tel que les travailleurs bousculent tout ce qui est prévu. Et donc, 2 jours après, le Front populaire va arriver au pouvoir, mais les grèves auront commencé à partir du 1er mai 1936. Et elles vont continuer, d'autant plus que le Front populaire est élu, mais il n'est pas véritablement au pouvoir. Il y a un temps entre les deux, et c'est ce temps qu'utilisent les travailleurs pour les grèves dont nous avons tous et toutes entendu parler et qui nous font encore rêver aujourd'hui, parce que ces grèves, elles vont déboucher en juin 1936 sur des lois qui sont les premières grandes lois sociales de notre pays, qui vont faire des salariés, du salariat, quelque chose d'un petit peu enviable, c'est-à-dire, bien sûr, la loi sur les 40 heures, qui sera malheureusement remise en cause dès 1938, les congés payés, les 2 semaines de congés payés, qui ne seront jamais reprises. Ils ne réussiront jamais à revenir en arrière là-dessus. Au contraire, on augmentera au fil du temps. Et puis, bien sûr, les conventions collectives et la présence syndicale pour la première fois dans les entreprises avec tout un tas de choses. C'est-à-dire que les travailleurs, pour la première fois, découvrent la possibilité du temps libre. Mmh. Et ce temps libre, y compris syndicalement, la CGT dit,
ça, c'est nouveau.
Eh ben, on veut pas le laisser au lucratif. Donc, on va créer nos propres structures de tourisme, de culture, etc., pour que ce soit toujours cette idée d'entraide qui est dès le début d'entraide et de culture qui est présente dès le début dans l'histoire de la CGT. Donc 36, ça reste un moment de bonheur. Hein, toutes les images le montrent. C'est le bonheur.
Sourires.
Voilà. C'est le bonheur de la lutte. C'est le bonheur de la grève parce que la grève c'est la liberté. On rompt pour un temps le lien de subordination qui nous soumet à l'employeur. C'est un moment de bonheur parce qu'on partage tout ça. Et puis c'est un moment de bonheur parce qu'on a de grandes conquêtes. Voilà, et ça reste dans la mémoire ouvrière jusqu'à aujourd'hui.
Aymeric, c'est quoi ton premier souvenir de manif du 1er mai, toi ?
Les souvenirs de manif du 1er mai, voilà, j'en ai fait après commencer à m'engager, parce que moi, mon engagement, il vient d'une occupation d'usine de mon précédent boulot.
Okay.
Donc j'ai des plus gros souvenirs quand même
d'occupation.
Déjà dans le militantisme au moment où je fais le 1er mai. Donc j'ai des grands souvenirs, mais aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle l'animation des luttes et sécurité. Donc moi, c'est beaucoup du travail, le 1er mai. Et mes plus grands souvenirs de frissons, par contre, c'est plus lié à l'élément déterminant de 36, qui est l'occupation des usines. Et quand on occupe l'usine, moi, c'est vraiment, ça me donne encore des frissons. Je l'ai fait dans mon premier boulot, et c'est ça qui m'a donné envie de faire du syndicalisme. C'est réoccuper son lieu de travail et sortir de ce rapport de subordination qu'on a tout le temps au travail, d'obéir au chef. Et là, d'un seul coup, on est avec les collègues, on fait à manger au commun dans l'usine, on regarde un film sur les luttes des anciens de l'usine, donc ça fait le lien avec ce que disait Benjamin sur produire des films sur les luttes locales, et c'est vraiment des frissons, et l'occupation, la grève en commun, c'est ça qui m'a engagé dans la voie syndicale.
Benjamin, le 1er mai, c'est un événement qui est entré dans la culture populaire.
Ah ben oui, mais même alors c'est vrai que maintenant ça a un côté un peu folklorique le 1er mai parce que c'est très ancré et du coup il y a toute la tradition puis il y a le côté les clichés qu'on a voilà merguez 1er mai le camion sono et tout on connaît tous moi que j'adore hein, qui est mon folklore
ouais,
que j'adore mais effectivement c'est super bien ce que vous rappelez de rappeler d'où ça vient en fait tout ce qui est représenté en fait dans ce folklore là et en fait c'est vraiment très juste ce que vous dites parce que sur le côté ça fait partie de la culture populaire en fait on pourrait parler oui effectivement de comment c'est représenté dans les films voilà ou les trucs qui moi me concernent dans mon travail mais en réalité ce qui est important c'est que la culture populaire justement c'est les gens qui la font et une organisation comme la CGT historiquement c'est les gens qui la font c'est les gens qui sont à la CGT et du coup la culture populaire c'est pas juste des œuvres qui retraceraient des choses comme ça c'est alors les gens qui allaient filmer les luttes, qui se mettaient les artistes qui se mettaient à la disposition des combats, mais c'est aussi en fait les événements comme ça, où voilà, animer un piquet de grève, une occupation d'usine, ou une manif, ou une chose comme ça, ça fait partie de la culture populaire, et ça c'est les gens qui s'en emparent et qui font vivre en fait cette culture-là, et qui évitent que ce soit juste un truc un peu muséifié, qui est bon voilà, on manifeste le 1er mai, c'est un peu une tradition, et non, derrière en fait il y a un souffle qui est beaucoup plus fort, et c'est ça qu'il faut entretenir quoi.
Parlons maintenant de l'un des hivers sociaux les plus chauds depuis 60 ans. Je parle des grandes grèves de 1995, avec la manifestation aussi du 12 décembre 1995 contre la réforme de la sécurité sociale qui était portée par Alain Juppé à l'époque. Maryse, à l'époque, c'était l'une des mobilisations les plus massives depuis mai 68. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
Alors en fait, on sentait depuis plusieurs semaines, on sentait le mouvement monter. On a eu une grève de la fonction publique au mois d'octobre 1995, à l'appel de l'ensemble des syndicats, et c'était la grève la plus forte depuis la libération. Le 24 novembre 1995, il y a la manif pour les droits des femmes, et là, on a une manifestation gigantesque qu'on n'avait pas connue sur ce sujet, qu'on n'avait pas connue du tout sur ce sujet précédemment. Et donc, on sent qu'il se passe quelque chose. Et à la SNCF, le pouvoir commet l'erreur de cumuler un plan de restructuration de la SNCF dans le contrat de plan donc qui prévoyait des réductions drastiques d'effectifs, de moyens pour les réseaux, etc. Et il y a un cumul dans le temps entre ce contrat de plan SNCF et le plan Juppé de la sécurité sociale.
D'accord.
Et donc déjà sur une situation de braise ardente, où on sentait, par exemple, les médias parlaient depuis plusieurs semaines de risques d'explosion sociale. On sentait que ça montait. Les fédérations CGT, parce qu'il faut aussi parler de l'organisation syndicale, à quoi elle sert. Et donc, au niveau de la direction de la CGT, les fédérations CGT, on a dit, c'est le moment, on met le paquet, on appelle à la grève partout où on est, partout où il y a des militants CGT, on appelle à la grève. Et donc, ça donne, la grève commence chez les cheminots le jeudi 22 ou 23 novembre, je crois. Et on essaye de prolonger. Et moi, à l'époque, j'étais secrétaire générale de la Fédération des PTT.
Et tu as été élue au bureau confédéral à ce moment-là.
C'est là que je suis élue au bureau confédéral, mais c'est pas lié à ça, c'était prévu à l'avance.
C'était prévu, d'accord.
et on a donc, dans le secteur public, beaucoup de grèves. Et ça, c'est la colonne vertébrale du mouvement. Mais le mouvement de 95, c'est pas que les grèves. C'est les manifestations. Et pour la première fois, on voit des manifestations énormes dans le pays, notamment dans des petites villes, des villes moyennes dont on ne parle pas d'habitude, dans des départements assez reculés. Et c'est là qu'un sociologue qui s'appelle Henri Vaquin invente le mot de grève par procuration.
C'est-à-dire,
il dit, la masse des salariés de France rejoint les manifestations, ils se sentent pas en situation de faire grève parce qu'il y a la crainte des représailles patronales, il y a les histoires évidemment de fric, etc., etc. Mais ils manifestent, ils soutiennent les grévistes et ils manifestent avec eux pour qu'ils gagnent. Et on a un espoir immense dans le pays qu'on réussisse non seulement à ce que Juppé renonce à son plan et au contrat de plan de la SNCF, ce qui au final arrivera, mais qu'on puisse véritablement changer les choses. Et le mouvement comme ça qui a débuté fin novembre se termine avec les fêtes de fin d'année. Le plan Juppé est effectivement retiré, le contrat de plan aussi. Mais Chirac, qui est le président de la République, continue sa politique. Par contre, 2 ans après, il y a les élections législatives, il est battu, la gauche revient au pouvoir, c'est la gauche plurielle, c'est Lionel Jospin, Premier ministre. Ça montre le...
C'est vrai que c'est un dynamisme qui a permis l'arrivée à la gauche au pouvoir, c'est ça que
voilà,
tu veux dire.
Voilà, c'est ça. Même si les syndicats n'étaient pas, n'appelaient pas, enfin n'ont pas conçu leur action pour que la gauche arrive au pouvoir, il y a un effet de conséquence.
C'est comme en 36,
et si je peux me permettre, oui, c'est un peu comme en 36, mais je pense que c'est la dernière fois.
Ah.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu que les expériences de la gauche au pouvoir n'ont pas toujours répondu aux attentes des salariés, cette mécanique où les luttes conduisaient à battre la droite, à mettre la gauche, cette mécanique est rompue et ça peut expliquer une grande part des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais ça, c'est pas l'histoire.
C'est un autre sujet. Merci, Maryse. Benjamin, est-ce que tu gardes quel souvenir toi tu gardes de 1995?
Alors bon, moi j'avais 9 ans, mais ouais, je me aussi. Souviens, il y a un truc qui est resté vraiment dans la mémoire, c'est le côté vraiment le pays bloqué.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment. Et alors j'ai pas réussi à retrouver avant. Je suis persuadé qu'il y a un film dont l'intrigue se passe en 95 et dont le décor du film c'est juste le pays est bloqué. Il est à l'arrêt. Et
je me souviens de ce film, mais je me souviens plus de son titre.
Je suis désolé, j'ai pas réussi à le retrouver avant. S'il y a des gens qui trouvent sur le chat ou quoi. Mais en fait, il y avait vraiment. Moi, j'étais petit, donc j'ai retenu ce truc de genre. Voilà, c'est fini. Mais en fait, derrière, il y a un truc qui est effectivement super intéressant. C'est ce truc de puissance collective. C'est-à-dire que c'est en fait le fait de prendre. Si les travailleurs sont pas d'accord avec quelque chose qui se passe, et ben juste le pays s'arrête. En fait, le pays repose uniquement sur eux. Et sur LZE. Donc il y a vraiment un truc de prise de conscience, et y compris dans le côté par procuration qui est très très intéressant. Et quand on pense, tu vois, le mouvement des retraites, où en fait t'as, je sais pas, 80 ou 90% des actifs qui sont contre la réforme que Macron a fait passer, et ben il y a eu un mouvement qui était énorme, mais qui n'a pas été qui a pas fait ce niveau de blocage et de manifestations monstres un petit peu partout, même s'il y avait vraiment d'énormes manifestations, et on n'a pas réussi à les faire reculer. Mais parce que je pense justement il y a un manque, il y a une fatigue, il y a un manque d'espoir, il y a peut-être un problème aussi de comment se coordonner, on sait pas exactement comment faire tout ça d'accord, alors que en théorie le 95 ça prouve que on peut. Tiens, en fait si 80-90% des actifs disent juste non stop, nous on veut pas ça, et voire même on veut plus de choses. Comme les choses qui ont été obtenues, tu parlais de 36, mais on pourrait parler de 68 ou quoi. En fait, c'est tout à fait possible. Mais par contre, il faut atteindre la masse critique de où les gens se... Et c'est presque pas psychologique, mais c'est un truc, c'est un déclic vraiment de se dire, en fait, si on s'y met tous, c'est sûr qu'on peut obtenir vraiment ce qu'on veut et on peut obtenir gain de cause. C'est ce qu'il y a, je trouve, derrière cette imagerie on peut mettre le pays à l'arrêt si on veut, parce que c'est nous qui faisons tourner le pays.
Emmerich, un mouvement social d'une telle ampleur que celle de 1995, est-ce que ce serait possible aujourd'hui selon toi?
Ouais, effectivement, moi tu m'as pas posé, j'avais 3 ans.
Oui, non, je n'ai pas osé te demander.
Pas, clairement pas. Non, effectivement, c'est totalement possible. En fait, c'est un des éléments centraux, c'est que souvent on parle des secteurs bloquants dans cette logique de la grève par procuration. En réalité, les secteurs qu'on dit bloquants, c'est les secteurs organisés. Et ce qu'il nous faut, c'est plus de secteurs organisés, plus d'organisations pour réussir à mettre ce pays à l'arrêt. Si demain, le secteur super organisé, c'est la grande distribution, elle peut mettre le pays à l'arrêt. Tout comme l'énergie, ils ont eu un gros impact, tout comme les cheminots, le transport, ils peuvent avoir un gros impact. Tous les corps professionnels peuvent être bloquants, c'est une question d'organisation. Donc oui, c'est totalement possible, s'il y a une confiance des travailleurs et travailleuses dans le fait qu'ils en sont capables. C'est vraiment cette question de confiance qu'il faut qu'on regagne, et cette question de l'organisation qui est vraiment centrale.
Dernière étape de notre histoire rapide de la CGT et du syndicalisme, c'est 2006, la lutte contre le CPE. Ah. Le contrat première embauche était une idée de contrat spécifique pour les moins de 26 ans, avec une période d'essai de 2 ans pendant lesquels un jeune salarié pouvait être licencié à tout moment sans motif ni justification de l'employeur. Le résultat de cette idée brillante de Dominique de Villepin, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'étudiants dans la rue, des blocages de fac, des semaines de grève et finalement l'abandon de cette réforme. Benjamin, toi tu as participé à, oui. à ce mouvement, raconte-nous. Oui.
Et à Limoges, et j'étais à la fac, donc beaucoup plus impliqué, évidemment. Mais du coup, moi, je l'ai fait côté étudiant, parce que c'est un mouvement qui est parti, justement, plutôt des étudiants, enfin, de la jeunesse, en fait, en réalité. Et la jeunesse organisée est plutôt dans les facs, dans les lycées. Mais ça a marché parce que c'était une question de travail et que très vite, les organisations syndicales ont rejoint le mouvement. Et que du coup, c'était un mouvement de toutes les travailleuses et travailleurs, que ce soit la jeunesse ou les autres secteurs organisés. Et c'était hyper formateur. Enfin, pour moi, genre, quand t'as 20 ans, tu fais ça, c'est, en fait, t'apprends, en fait, ta capacité d'action et à t'organiser. Et puis, tu fais des liens aussi, c'est con, hein, mais tu fais des liens avec des gens, de choses que tu oublieras jamais, qui sont des liens forts et qui sont utiles pour la suite. Bon, alors, bon, là, on avait gagné, donc moi, j'ai un peu pris la confiance à ce moment-là. Et après, ça, c'est, les autres mouvements, c'était, c'est pas passé aussi bien. Mais ouais, c'était quand même un moment hyper fort. Et je pense qu'on n'a pas exactement, peut-être c'est avec le truc générationnel, mais j'ai pas revécu ça depuis avec vraiment ce niveau d'ampleur et de coordination vraiment entre tous les secteurs. Et voilà, donc c'est vraiment des moments fondateurs. Mais je pense que chaque génération en fait a ces moments où en fait tu découvres quoi. Tu dis genre mais en fait on peut faire ça. Et tu reprends une façon de prendre la vie en main, parce que tu vois, sur un discours individualiste d'entrepreneur, de dire prends ta vie en main, et en fait ça, c'est nul à côté de dire tu fais ça collectivement avec les gens, mais la puissance que t'as et l'expérience humaine que c'est et la capacité à améliorer aussi les conditions de vie là-dedans, c'était vraiment une découverte.
Et puis c'était une des dernières fois où un gouvernement a reculé face à un mouvement qui plus est un mouvement étudiant, oui, et oui, jeune, oui, et lycéen. Oui. Maryse, comment est-ce que la CGT s'est coordonnée avec les étudiants à l'époque?
Oui, alors on n'a pas la CGT n'a pas rejoint le mouvement, elle a même été la première à le lancer, puisque la toute première manifestation était le 31 janvier devant l'Assemblée nationale. Il y avait très peu de monde, mais l'UNEF est venue, l'organisation lycéenne est venue, et nous avons réuni une intersyndicale de salariés et ensuite avec les syndicats de lycéens et d'étudiants très rapidement. En fait, nous avons considéré qu'il y avait un enjeu commun et que nous devions tous les syndicats, agir ensemble et nous écouter, comment dire. Pendant 4 mois, nous avons tenu une intersyndicale avec 12 organisations, donc c'est pas simple, hein, organisation de salariés, organisation étudiante et lycéenne. Et le principe était que chaque fois qu'une des organisations émettait une proposition, eh bien, on essayait de la travailler. Il y en a qui voulaient manifester le samedi. Bon, cette fois-ci, c'était pas bon, mais la fois d'après, on manifestait le samedi. Il y en a qui préféraient appeler à la grève. Bon, cette fois-ci, c'était pas possible. La prochaine fois, on allait appeler à la grève, etc. Et on a tenu comme ça pendant 4 mois, avec des liens très étroits entre nous. Et on oublie l'avant et l'après, toujours, dans toutes les luttes. L'avant, c'est fin 2005. C'est des émeutes sociales de jeunes dans les banlieues.
Dans les banlieues, oui.
Et c'est parce que le gouvernement ne sait pas comment s'en sortir que Dominique de Villepin décrète l'état d'urgence et contre lequel la CGT se bat, et lance le CPE. Les 4 mois, je viens d'en parler, et derrière, nous avons, c'était 2006, le CPE, et 2008, c'est la crise financière. Et l'année 2008, nous avons à nouveau en intersyndicale réussi à faire 3 manifestations avec plusieurs millions de personnes, avec l'idée, la crise c'est eux, la solution c'est nous. Donc on voit le potentiel qu'il y a lorsqu'il y a l'unité et comment on peut avancer, bouleverser l'ordre des choses. Et sur le CPE, le souvenir, je pense, que nous avons toutes et tous, c'est cette chose extraordinaire que le CPE a été adopté à l'Assemblée nationale, il a été promulgué, et le président de la République, une fois la loi promulguée, a dit... Je vous demande de ne pas appliquer la loi. Dans une vie militante, enfin, pour moi, je me suis dit, bon, ben, ça y est, avoir obtenu ça dans une vie militante, c'est extraordinaire, quoi.
Hein, c'est vrai que c'était un peu lunaire.
Ça récompense, c'est...
C'était un peu lunaire,
cette voilà, promulgation, non promulgation. C'est comme ça. Donc, c'est aussi pour donner de l'espoir, ce que je dis là, c'est-à-dire que on n'en a jamais fini. Avec la lutte, on peut tout bouleverser. On peut bouleverser tous les plans prévus, tout ce qui est prévu contre nous. Le problème, c'est notre unité, notre solidarité, notre confiance en nous-mêmes et dans l'avenir. Et c'est ça qui peut, à tout moment, tout changer, y compris aujourd'hui où pourtant la situation est très compliquée. Ouais. Mais elle dépend de nous. Elle dépend toujours de nous.
Aymeric, quel souvenir que tu gardes de ces grandes manifestations ?
Du CPE. Ouais. Alors moi, j'étais en quatrième, donc autant les lycées et les universités étaient le fer de lance. Nous, on était un peu moins. Mais c'est quand même un moment où même mon collège a été bloqué quelques jours. Donc c'est vraiment une période pour moi d'éveil un peu aux grands enjeux politiques. En pleine adolescence, c'était vraiment le premier moment. Après, c'est pas un moment de militantisme aussi fort que pour toi. Les générations juste après moi, ça a beaucoup été 2016. Moi, j'étais étudiant 2010 à 2015. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu la réforme des retraites 2010, mais après, c'était très calme. Par contre, ouais. 2016, il y a beaucoup de camarades ici. C'est des premières dates. Et après, pour d'autres, c'est vraiment... Moi, syndicalement, vraiment sur l'activité syndicale, c'est l'hiver 2019-2020, réforme des retraites. Parce que là, maintenant, à ce moment-là, j'étais déjà syndiqué, actif dans mon syndicat. Et 2023, où là, on a fait vraiment plein d'actions super, avec être sur les barrages hydroélectriques au fin fond des Alpes, pour soutenir les camarades de l'énergie, à faire des actions avec les cheminots. C'était vraiment des grands moments.
Merci beaucoup à Maryse, Benjamin et Aymeric. Je vous demande de les applaudir très fort. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quitter le plateau, les amis. Merci beaucoup d'être venus. Merci Maryse.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire un tout petit mot très, très rapide, parce que je ne serais pas un très bon syndicaliste si je ne disais pas un petit mot de solidarité pour notre collègue de Blast, Yanis, qui est actuellement emprisonné en Israël. Voilà. Donc ça aussi, solidarité. Et je sais que les organisations de journalistes, etc., sont aussi derrière. Et voilà, je tenais à le dire.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toutes et à tous. Je vais vous laisser quitter le plateau qui va être rejoint par de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses de la CGT et de Backseat, réunis ensemble pour cette émission exceptionnelle pour les 130 ans de la CGT. Nous sommes toujours ici sur le parvis de la mairie de Montreuil, sous un soleil de plomb. Bravo à notre public qui nous regarde et qui soutient. Merci les copains, vous êtes magnifiques. Vous inquiétez pas, la température va baisser, ça va mieux se passer, ça va être de mieux en mieux. Allez, rejoignez-nous, venez vous installer sur le plateau, chers amis. Je vais vous présenter dans quelques minutes. Attendez, il faut que je boive. Hop.
Il fait bon là, c'est bien.
C'est agréable, hein. C'est agréable. Mesdames et messieurs sont venus s'installer autour de ce plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Vacheron, secrétaire général de la CGT, responsable de la communication des élus, des mandatés CGT dans les comités sociaux d'entreprise et des rapports unitaires. Merci Thomas d'être avec nous. On est également avec Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale CGT en charge des questions de mixité femmes-hommes et co-secrétaire générale de l'Union départementale du Val-d'Oise. Merci Myriam d'être avec nous. Et on est également sur ce plateau avec Emilio Mellet, mesdames et messieurs. Emilio, tu es grand reporter politique et écologique à l'Humanité.
Salut.
Merci d'être avec nous. Et on est avec Safia Aïtouarabi. Safia,
bonjour.
Militante à la riposte antiraciste, étudiante à l'Université d'Aix-Marseille. Vous pouvez les applaudir très fort. On va parler de l'actualité de la semaine. Chers amis, cette semaine, l'actualité sociale et l'actualité des luttes a été marquée notamment par le rapport du Conseil d'orientation des retraites. La question des retraites est revenue au cœur de l'actualité et du débat politique la semaine dernière avec la fuite, puis la publication officielle d'un nouveau rapport du corps. Dans ce rapport, le corps préconise notamment un nouveau report de l'âge légal de départ à la retraite à 66 ans en 2045. Le rapport a fait l'effet d'une bombe alors qu'on est dans la dernière ligne droite, vous pouvez huer bien sûr, alors qu'on est dans la dernière ligne droite du conclave sur les retraites qui doit prendre des conclusions mardi prochain. Emilio, qu'est-ce qu'il contient ce fameux rapport du corps qui fait l'effet d'une bombe?
Alors, tu nous l'as dit, c'est un rapport qui émet des préconisations, et les préconisations, elles ont fuité notamment sur un point, et comme d'habitude, vous allez voir, ça ressemble au programme d'Edouard Philippe, en fait, et c'est augmenter encore l'âge de départ. Là, il y a deux ans, on a encore eu une nouvelle réforme des retraites, 64 ans, et maintenant, ce serait 66 ans et demi, c'est important, d'ici 2070, encore et encore. Alors, pourquoi ça pose problème, cette proposition? Déjà, parce que le corps outrepasse son rôle, qui est d'habitude, c'est communément admis, le corps doit faire un constat et donner l'ensemble des possibles. Sauf que là, quand on regarde les propositions du corps, elles penchent très sévèrement du côté du report de l'âge. Et donc, en fait, c'est un dévoiement de cet outil du corps. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, le système des retraites, il est très faiblement déficitaire. Et il le sera à peine plus en 2030, etc.
Et pourquoi est-ce que le corps a changé de ton ?
Alors, le corps a changé de ton aussi parce qu'il y a à peu près un an et demi, il a changé de président.
Ah.
Le nouveau président, il s'appelle Gilles Berset. Je crois qu'on a des amis de Gilles Berset, d'ailleurs, sur le plateau. Gilles Berset, qui sait, eh ben, c'est un libéral, aux surprises, comme Emmanuel Macron a l'habitude d'en nommer à la tête des différentes institutions et comités, etc. Et donc, il a vampirisé le corps parce que c'est celui qui est à l'origine c'est l'architecte en fait du programme d'Emmanuel Macron en 2017.
D'accord.
Et c'est un ennemi farouche aussi de l'augmentation des salaires, mais je crois que là Thomas est dans les starting blocks. Donc
Bah Thomas, explique-nous, est-ce que tu penses que le corps a été instrumentalisé ? Est-ce que tu penses que c'est ça ?
Bah le changement de président
parle bien dans le micro.
Le changement de président avec Gilles Berset qu'on connaît très bien puisque Gilles Berset, il a une particularité, il a été président du groupe d'experts de la non augmentation du SMIC. C'est extrêmement important de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un groupe d'experts qui donne des indicateurs pour savoir s'il faut ou non augmenter le SMIC. Et quand Gilles Berset était président de ce groupe dit d'experts du SMIC, il a proposé avec constance pendant 15 ans, depuis que le groupe d'experts de la non-augmentation du SMIC, comme on l'appelle, systématiquement de pas augmenter le SMIC. Donc on le remercie, c'est comme tu le disais, quelqu'un d'extrêmement libéral. Alors ça pourrait nous faire sourire si c'était pas dramatique, puisque vous savez qu'on est un pays particulier, un pays où le SMIC est, et il y a beaucoup de salariés qui sont au SMIC, beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui n'arrivent pas à vivre au SMIC. Il y a près de 3 millions de salariés qui aujourd'hui dans ce pays sont au SMIC et n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et d'ailleurs, 60% des SMICards sont des femmes. Comme par hasard, les salariés les moins bien payés, ce sont des femmes, mais Myriam en dira plus sur le sujet. Et pour revenir sur le corps, justement, et sur cette, en fait, ils ont fait fuiter le rapport volontairement le lendemain de quelque chose qui n'était encore jamais arrivé. C'est-à-dire que pour une fois, pour la première fois, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. On a manifesté par millions, on les a mis sous pression. Ça a été ancré au plus profond de la société, la question de « on ne veut pas travailler plus longtemps, 64 ans, c'est toujours non ». On a sorti un sondage CGT qui montre que 66% de la population est pour l'abrogation. Et enfin, ça a été un vote symbolique à l'Assemblée qui a eu lieu le 5 juin, le jour d'une mobilisation interprofessionnelle à l'appel de la CGT. Et faire contre-feu, bah, dès le lendemain, ils ont sorti le rapport. Et le rapport, comme tu viens de le dire, avec un seul axe, nous faire encore et toujours travailler plus longtemps, jamais d'autres possibilités qu'on propose, comme augmenter les cotisations sensiblement, ou mettre à contribution les capitaux, ou l'égalité homme-femme, mais Myriam en dira plus.
Bah justement, Myriam, je t'en supplie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la réduction des inégalités hommes-femmes sur les temps partiels subis permettrait de renflouer les régimes de retraite ?
En fait, lutter contre les inégalités femmes-hommes par le biais donc de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des salaires des métiers à prédominance féminine et aussi de l'interdiction des temps partiels subis, ça serait une manne financière énorme. Déjà, ça serait une mesure égalitaire, puisque, comme l'a dit Thomas, 60% des SMICards sont des SMICardes, qu'à la retraite, c'est encore pire, puisqu'on a énormément de femmes qui partent avec des décotes ou qui sont au minimum de pension. Donc tout ça fait que ça permettrait, un, de faire rentrer des cotisations sociales, deux, d'être des mesures de pouvoir d'achat, et trois, ça permettrait le financement des retraites, hein, de notre système social. Et on voit d'ailleurs, et ça Thomas le disait, que le gouvernement, il se contredit lui-même, et Gilles Berset se contredit lui-même, puisque lorsqu'ils ont passé la réforme des retraites en 2023, la solution c'était de travailler jusqu'à 64 ans. Deux ans plus tard, hein, quand il y a une mobilisation qui continue avec grâce à la CGT, on a continué à mettre la pression en entreprise, dans les administrations et dans la rue, et on a réussi à avoir pour la première fois un vote jeudi. On voit qu'ils se contredisent eux-mêmes en continuant à vouloir absolument augmenter la durée d'âge pour partir en retraite.
Thomas, c'est quoi le bilan que vous tirez, vous, du conclave sur les retraites ? François Bayrou a dit qu'il existe un chemin pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Il a raison ou pas ?
Évidemment, François Bayrou, il tend des pièges pour essayer vraisemblablement de durer de plus longtemps, mais ça, c'est son affaire, pas la nôtre. Nous, la nôtre, elle est très, très claire, c'est qu'on veut abroger la réforme des retraites de 2023 à Macron, et on veut même revenir sur les précédentes, parce que pour nous, l'objectif, c'est de vivre mieux. On est dans un pays qui a jamais créé autant de richesses et systématiquement, c'est les salariés qui doivent payer. Du coup, évidemment, on pense que le conclave qui était proposé au départ sans totem ni tabou, bah, il est revenu dessus et on a claqué la porte, pas simplement comme ça, mais en essayant de mobiliser derrière. Hein. Vous avez vu, le premier mai de cette année était important sur contre la trumpisation du monde d'un côté. Il y avait beaucoup de jeunesse qui était mobilisée dans toutes les villes de France. À Paris, il y avait 100 000 personnes, 300 000 personnes dans toute la France, mais aussi pour défendre les salaires et l'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est ce fil conducteur permanent que Myriam évoquait, sur le fait que l'abrogation, la population la veut. On ne veut pas crever au boulot, on ne veut pas se faire voler deux années de vie en plus. Donc ça suffit et on ne lâchera pas. On a eu enfin le vote, il faut continuer. Maintenant, il faut abroger 2023 et revenir à une retraite à 60 ans.
Safia ?
Ouais, pour aller dans la suite de la discussion, en fait, j'étais en train de me dire que le point commun entre le rapport du corps en réalité, qui est très idéologisé, hein, comme on vient de le montrer, et justement ce recul sur les modalités du conclave par Bayrou, pour moi, ça revient au fait, comme tu disais Thomas, qu'en fait, ils veulent nous faire payer leur crise. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que leur système a des difficultés et qu'en fait, pour eux, c'est aux travailleurs de payer cette crise-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très idéologique. Il faut utiliser ce terme. Il faut le dire parce qu'en fait, il y a d'autres manières de voir la survie du monde du travail, de voir une manière de faire sa vie, d'avoir le droit à la retraite, d'avoir le droit de se reposer. Parce que je pense que derrière cette idéologie, c'est jamais innocent les projets, par exemple, de retraite par capitalisation qu'il peut y avoir, de système mixte ou de système plein comme aux États-Unis. Et je pense que voilà, derrière des rapports comme Le Corps qui pousse un peu plus loin pour un peu aussi tester les limites, hein, savoir ce que vont dire les syndicats, comment ça va être pris dans les médias, comment ça va être pris auprès des travailleurs, c'est des gens qui poussent toujours plus les limites de l'acceptable pour aussi faire accepter une dimension idéologique.
Emilio, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? C'est quoi ce vote ?
Oui, bah justement, Thomas l'a évoqué, c'était le 5 juin, c'était à l'initiative de la niche, c'était dans la niche parlementaire, donc c'est-à-dire la journée où les groupes ont le droit de déposer toutes les propositions de loi qu'ils veulent. En l'occurrence, cette fois, c'était une proposition de résolution faite par les communistes, ouais, qui visait à demander au gouvernement d'abroger la réforme des retraites. C'est la première fois, après deux ans de déni démocratique, quand même, que les parlementaires se sont exprimés, parce que je le rappelle, c'est un projet de loi de retraite qui n'a été voté qu'au Sénat. L'Assemblée nationale se l'est vu imposer par 49-3. Et donc, les députés ont largement voté, donc c'est un désaveu énorme. Alors, par contre, c'est pas contraignant. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne vient pas, malheureusement, d'abroger la réforme à 64 ans. Ça, c'est le seul qui a la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est François Bayrou. Vous savez, à l'Assemblée nationale, les députés peuvent pas tout abroger, ils peuvent pas créer une charge supplémentaire dans le budget de l'État ou de la sécurité sociale. Et donc, là, ça leur est impossible. Il faut revenir quand même sur les origines de ce conclave, toujours sur François Bayrou. Parce que ce conclave, comment il apparaît ? Il apparaît au moment où Michel Barnier tombe et François Bayrou vient d'être nommé. Il sait que c'est un sujet extrêmement important pour la gauche que d'abroger cette réforme des retraites. Et donc, lui, il veut pas le faire. Il sait que Macron, il veut pas. C'est une ligne rouge pour Macron et les macronistes, y compris pour la droite qu'il veut dans son gouvernement. Et donc, il se dit, on va essayer d'inventer un comité Théodule, là, où au départ, on dit, on peut revenir sur les 64 ans. Et puis, en fait, au final, non, tout ça pour, en fait, obtenir la non-censure des socialistes. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, c'est que François Bayrou, il a donné un droit de veto au MEDEF en disant que de toute façon, s'il y avait absolument pas d'accord entre les syndicats et le patronat, c'est la loi Borne qui s'appliquerait. Donc, dès le départ, ce truc-là était biaisé.
Et du coup, tu veux dire que François Bayrou joue son avenir ?
Ouais, parce que même les socialistes, alors, qui décidément changent un peu de pied sur la censure, là, on dit que à la fin du conclave, s'il n'y avait pas d'accord, la question des retraites ne venait pas à l'Assemblée, il déposerait une motion de censure. Et si on prend les équilibres de la proposition de résolution, il va la perdre.
Est-ce que François Bayrou n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Myriam, t'en penses quoi ?
Alors, je pense qu'il a peut-être intérêt à ce qu'il y ait un accord, mais de toute façon, le conclave, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a quitté, parce que la question de l'âge de départ en retraite n'était plus sur la table. Donc, on a essayé de pousser au maximum ce qu'on pouvait pousser, et une fois qu'on a eu les certitudes comme quoi aucun retour à l'âge de départ en retraite n'était possible, c'est là qu'on a averti le monde du travail que ce conclave ne servait plus à rien. Par contre, il y a encore des points de levier qui sont importants, et il y a aussi celui du référendum.
Donc, ça permet. Ce que j'allais te demander, ouais.
Oui, ça permettrait justement à Bayrou de s'en sortir la tête haute et de proposer un référendum. Et on sait, et vous l'avez dit, qu'il y a 70% des salariés de ce pays qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça lui permettrait de sortir par le haut et de ne pas proposer en fait d'empirer les choses avec la capitalisation. On sait très bien ce que ça a fait aux États-Unis il y a plus de 10 ans. Peut-être
c'est
un vrai peu que plus
c'est proposé par certains acteurs à droite, effectivement, d'introduire la capitalisation.
Donc, et en effet, on voit l'idéologie capitaliste qui veut remettre la main sur la manne financière des retraites par le biais de la capitalisation qui finance les banques et qui finance les assurances.
Et il y a l'extrême droite aussi, parce que là, on dit libéraux, mais en fait, la nouveauté aussi, c'est que l'extrême droite commence à en parler, de la capitalisation. Il y a une conférence de presse, il n'y a pas longtemps, du RN, déjà, ils se sont convertis à la règle des 3% imposée par Bruxelles, le 3% de déficit que les États ont théoriquement pas le droit de dépasser. Donc le RN a dit qu'il la respecterait et surtout ils disent que la capitalisation quand même, peut-être qu'on pourrait commencer à y penser. Certains, là pour l'instant c'est une capitalisation à titre individuel comme ça a pu être le cas dans certains pays européens, mais en fait ils essaient tellement de draguer les marchés financiers qu'ils en viennent à lâcher quasiment le système par répartition, eux aussi. Et donc c'est vraiment l'arnaque sociale de l'extrême droite. Il faut le marteler aussi, je pense. C'est important.
Et si c'est tellement l'arnaque, il y a quelque chose qui est très important.
Parle bien dans le micro, parle vraiment comme ça.
C'est tellement l'arnaque parce qu'il faut bien l'expliquer. En fait, comme tu viens de le dire exactement, je partage évidemment ce que tu viens de dire, ce que les salariés souvent ne savent pas, la population ne sait pas, c'est que les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 4%. Les frais de gestion d'une banque ou d'une assurance, c'est 20%. Quand c'est privé, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, parce que tout le monde comprend bien que quand c'est privatisé, capitalisé, ils font pas ça gratuitement, ils font ça pour l'argent. Donc la capitalisation, il n'y a aucun intérêt pour les salariés. Et d'ailleurs, les mêmes, le patronat notamment, qui refuse qu'on augmente un petit peu les cotisations pour équilibrer, pérenniser le système, même revenir aux 62 ans, voire même revenir aux 60 ans, ben, ils sont farouchement opposés pour qu'il y ait plus de cotisations et par contre ils sont très favorables à ce qu'on paye plus de capitalisation. Vous voyez bien l'arnaque. Et le deuxième élément, presque plus important, méconnu, il y a 3 budgets dans ce pays. Il y a le budget de l'État qui est très endetté. Il y a le budget des collectivités territoriales qui est faiblement endetté. Et il y a le budget de la sécurité sociale qui a 80 ans cette année, c'est une année d'anniversaire, qui est le plus faiblement endetté. En fait, le budget le moins endetté, le budget de la sécurité sociale, celui qui est lié au salaire brut, les lignes en haut de notre fiche de paye, c'est le moins endetté et c'est le plus attaqué. En fait, la grosse arnaque, c'est ce qu'a dit Myriam, c'est que rien que sur les retraites, c'est 380 milliards d'euros et ils voient ça comme un gros magot, ils veulent rentrer dedans pour le privatiser, pour en faire des bénéfices. Qui peut croire une seule seconde que les banquiers ou les assureurs, ils ont un intérêt pour les salariés, si ce n'est pour leur portefeuille?
On va parler de l'avenir de la CGT, de l'avenir du syndicalisme. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a parlé de l'histoire de la CGT et du syndicalisme. Et là, je voudrais qu'on se tourne notre regard vers l'avenir, puisqu'il y a un sondage qui a été commandé par la CGT sur le rapport entre les jeunes et le syndicalisme. Les premiers éléments frappants sont pas très encourageants pour l'avenir du syndicalisme. Je vous donne quelques chiffres qu'on va commenter ensemble. 95% des jeunes ne sont pas syndiqués, 16% ignorent s'il y a un syndicat dans leur entreprise, un tiers ne fait pas confiance à la CGT pour défendre les intérêts des travailleurs et la moitié des jeunes ne fait pas confiance au syndicat pour défendre les intérêts des jeunes. Thomas, est-ce que ça déclenche une alerte rouge à la CGT, ces chiffres ?
En fait, c'est important de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que quand on regarde les aspirations de la jeunesse, elles sont de fait très proches des revendications de la CGT. Mais comme les revendications et les propositions de la CGT sont trop peu connues, et elles gagnent à l'aide, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'initiatives pour le faire, et il faut le faire encore plus, encore mieux, et on vous remercie aujourd'hui parce que ça le permet. La première, par exemple, préoccupation de la jeunesse, c'est en fait les salaires. Ça tombe bien, l'outil le plus adéquat pour augmenter son salaire, c'est la CGT, c'est de s'organiser collectivement dans son entreprise avec un syndicat, et on a même un tuto en ligne, s'organiser avec la CGT pour gagner des augmentations de salaire. Le deuxième élément, celui que tu as pointé, parce que nous, on ne veut pas tourner autour du pot, oui, il y a une carence, il y a un manque de conscience des jeunes sur l'utilité du syndicat, l'utilité du syndicalisme. Et ça, il faut qu'on le travaille. Après, vous le savez, vous êtes dans les médias des milliardaires, c'est un long flot permanent assez catastrophique qui nous montre à la télé que quand c'est une partie de la caricature ou qu'en tout cas quand il y a des grèves. On le dit souvent, hein, on va sur BFM TV que quand on commence à bloquer le pays. On va jamais à la télé pour montrer ce que c'est que le syndicalisme du quotidien, ce que Emeric a expliqué tout à l'heure, défendre ses collègues de travail, défendre son salaire, écouter ses collègues de travail, organiser les salariés pour quoi faire, améliorer son salaire, améliorer les conditions de travail. Et 90% de notre temps, c'est de s'occuper de ses collègues de travail, pas juste l'image d'Épinal qui est tout le temps montrée à la télé. Et c'est ça qu'il faut qu'on valorise plus et mieux, comme on a essayé de le faire aujourd'hui, puisque Myriam le dira. Il y avait plusieurs centaines de jeunes aujourd'hui dans la bourse du travail de la CGT à Montreuil pour discuter de ces sujets, pour affronter les difficultés, les dépasser et gagner.
Myriam, qu'est-ce qui explique selon toi cette désaffection des jeunes pour la CGT et pour le syndicalisme en général qu'on constate dans le rapport, dans l'enquête, pardon?
Alors oui, moi ce que je nuancerais, c'est que c'est plus une réticence à se syndiquer dans un syndicat d'ordre général. Mais pour autant, nous on a des signaux qui nous rassurent et qui sont extrêmement importants. Depuis justement le combat qu'on a mené contre la réforme des retraites depuis 2023, on a une hausse exponentielle du nombre de syndiqués et de syndiqués jeunes et de syndiqués femmes. Et on a eu ce même rebond lorsqu'on a fait campagne l'année dernière pendant la campagne du NFP. Qu'on appelle campagne du NFP, on a aussi eu un rebond du nombre d'adhésions et notamment des jeunes. Donc on a sauté un pas qualitatif où ce sont des jeunes qui se sont syndiqués pour nos valeurs, pour ce que nous portons et notamment nos valeurs de lutte et nos valeurs de lutte contre l'extrême droite plus précisément dans la période récente. Mais voilà, donc on est dans un syndicalisme qui répond aux revendications de la jeunesse, puisque dans le même sondage que tu cites, il y a les enjeux pour la jeunesse, les enjeux, c'est l'augmentation des salaires. Thomas le disait, la CGT, c'est le syndicat de la fiche de paye. C'est celui qui mène les NAO dans les entreprises, qui débraye quand...
Négociations annuelles
obligatoires. C'est celui qui débraye lorsque le patronat ne veut pas augmenter les salaires et c'est celui qui organise le monde du travail. En deuxième enjeu d'importance pour la jeunesse, c'est l'accès au logement, l'accès aux services publics. Donc ça, c'est aussi des combats qu'on mène et notamment dans notre campagne pour les services publics et pour le bien commun. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on répond aux revendications de la jeunesse pour peu que la jeunesse les connaisse. Et en effet, comme on le dit, nous sommes rarement invités pour pouvoir dire ce que nous portons comme revendications, mais plutôt invités lors des moments de crise. Et à savoir que la CGT, elle signe en fait beaucoup d'accords, elle va à la négociation, elle essaye de tirer les salaires. Contrairement à ce qu'on peut croire. Donc en fait, on est sur... là où on débraye, là où on mène la lutte, c'est parce qu'on est dans un point de friction avec le patronat qui ne lâche absolument rien. C'est pas la CGT en fait qui bloque en général, c'est le patronat qui bloque et c'est la CGT avec le monde du travail qui répond.
Safia ?
Oui, moi je voulais réagir à ce que tu disais Thomas, parce qu'en fait j'essaye de me remémorer un peu mes années collégiennes, lycéennes, et là maintenant je suis étudiante, et en fait dans les médias la plupart du temps, dans les médias bourgeois, quand on voit des syndicalistes, des travailleurs bloquer le pays, moi personnellement, ça m'évoque une fierté. Ça m'évoque la fierté de, ok, mes parents, tous ces gens dans ma famille, en fait, c'est la puissance de la classe ouvrière. Ils ont une capacité de dire, on va pas se laisser imposer des lois, des trucs chelous comme ça. Mais je pense qu'effectivement, les gens que ça peut déranger, notamment ceux qui vont consommer les médias bourgeois, ça peut être les vieux de la boule, mais pas la jeunesse. Pour la jeunesse, j'aurais trouvé d'autres raisons. C'est que le marché du travail, ces 20 dernières années, il a été profondément modifié par la sous-traitance en cascade et par l'intérim, notamment chez les jeunes. On a des postes, des jobs qui sont précaires au fin fond d'une boîte sous-traitante où, en fait, certes, les opérateurs, par exemple, peuvent être syndiqués, mais le syndicalisme n'arrive pas à atteindre jusque les petites boîtes sous-traitantes. L'intérim, c'est des parcours de travail qui sont hachés où c'est très difficile de se syndiquer et ça devient un défi, en fait, pour le syndicalisme d'arriver à toucher ces couches-là des travailleurs et des travailleuses quand on a le patronat qui essaye de déstructurer le marché du travail sur lequel se base le syndicalisme. Et la dernière chose que je voyais, c'est que dans la jeunesse, les moments où il y a eu du regain pour l'action collective, pour le syndicalisme, ben en fait, c'est quand on a montré le visage d'un syndicalisme de combat et quand on a montré que le syndicalisme était en capacité de prendre en charge plein de questions de société et qu'en fait, encore une fois, on parlait d'idéologie tout à l'heure sur la question des retraites et de la capitalisation, mais en fait, il faut assumer qu'on a une idéologie qui est celle de l'émancipation.
Emilio ?
Ouais, moi, je voulais insister sur ton deuxième point. Tu disais, à raison, c'est vrai que effectivement, la précarisation des jeunes faisait aussi obstacle, évidemment, à la syndicalisation. Le chiffre que tu donnais, Jean, il est inquiétant. Effectivement, 95% des jeunes ne sont pas syndiqués. Moi, il y a un autre chiffre qui m'intéresse dedans, c'est lorsqu'on leur demande, il y a en gros classé les priorités selon différents types de sujets. Sur la question droit, des droits, ce qui arrive très fort, c'est pouvoir défendre mes droits sans être inquiété. Et en fait, je pense qu'il faut lier les deux, parce qu'en fait, plus on est précaire, moins on a la possibilité de faire entendre sa voix. Moi, les premiers trucs qu'on entend quand on arrive dans une boîte, quand t'arrives en CDD ou en intérim, c'est surtout, tu vas pas voir les syndicats, tu restes loin de ces trucs-là, sinon tu te feras pas embaucher. Et c'est le témoin, à mon sens, de la dureté du patronat qu'évoquait Myriam tout à l'heure, qui ne lâche rien. C'est-à-dire qu'elle fait pression, notamment sur les jeunes dès qu'ils arrivent, pour parfaire l'atomisation que le libéralisme essaie d'appuyer. La force du syndicat, c'est la force du collectif. Parce qu'en fait, quoi qu'on dise, la question, c'est celui du rapport de force. Et le rapport de force, tout seul, on peut pas le mener. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Mais j'ai l'impression que, notamment chez les jeunes, en fait, on n'entend plus ce message parce qu'on est tellement en train de nous dire qu'il faut se méfier des syndicats quand on arrive dans les boîtes que le taux de syndicalisation chute de façon drastique.
Thomas, dans ce sondage, vous constatez que la première préoccupation de la jeunesse, c'est de vivre de son travail. C'est important, ça.
C'est exactement ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la jeunesse comme les salariés, leur première préoccupation, malgré le matraquage médiatique permanent, y compris ce que renvoient les organisations politiques réactionnaires et d'extrême droite, n'en parlons pas, malgré ce matraquage-là, la première préoccupation, c'est donc de vivre correctement de son travail, donc d'augmenter les salaires, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et je pense que pour qualifier, caractériser, aujourd'hui, il y a une radicalité. C'est une radicalité patronale, une radicalisation patronale extrêmement forte. Tu évoquais la question de la sous-traitance. En France, on aime bien nous comparer avec les autres pays d'Europe, toujours sur ce qui les arrange. La France, alors que c'est la deuxième économie européenne, on a seulement le sixième SMIC d'Europe. Et pourtant, quand vous discutez avec la population, tout le monde vous dit le problème de la France, c'est le coût du travail, le SMIC est trop haut, etc. Deuxième économie, seulement le sixième SMIC. Et deuxième élément, on est de très loin les champions d'Europe de la sous-traitance, justement. Parce que notre économie, aujourd'hui, elle est organisée, ordonnancée, avec la sous-traitance en cascade. Les champions, ils prennent un marché, ils le revendent à un autre, ils le revendent à un autre, sauf qu'à la fin, il y a des travailleurs et des travailleuses, puisque Myriam le spécifie justement. Moins bien t'es payé, plus en général t'es une femme, puisque c'est les emplois féminisés les moins bien payés. Mais pire, c'est que au-delà de l'état de fait et de la radicalisation patronale, il y a une organisation pour en arriver là. En fait, ce qu'il faut connaître aussi, on parle souvent des aides publiques aux entreprises privées. C'est 200 milliards d'euros. Sur ces 200 milliards d'euros, il y a près de 90 milliards d'exonérations de cotisations. Sur votre fiche de paye, c'est le brut qui est en haut. Et ça, les patrons n'en payent pas. Quand on est au SMIC, il n'y a quasiment plus de cotisations sociales. Et la dinguerie, si je peux le dire comme ça, c'est que plus bas est ton salaire, moins bien t'es payé, plus mal t'es payé, plus ils touchent des aides publiques aux entreprises privées. Donc qu'est-ce que font les patrons? Et pour leur profit d'un côté, et parce qu'ils se radicalisent de l'autre, c'est sous-traitance, tout le monde est au SMIC ou aura des pâquerettes, et ça tasse tous les salaires, puisque, autre record, c'est extrêmement important, et on vous remercie de faire des références historiques, c'est la première fois que le tassement entre le SMIC et le salaire médian, c'est-à-dire combien de personnes au-dessus, en dessous, c'est 2200 euros net. Le SMIC, c'est 1426 euros net. Il n'y a jamais eu autant de monde dans ce delta-là. Dans le privé, c'est 11 millions de personnes qui vivent avec ça. Alors, quand on est jeune, on est encore plus confronté à ça, encore plus confronté à la précarité. Et pour terminer quand même, parce qu'au-delà des portes ouvertes, comme on le disait, moi, je vais prendre une chose. Le rapport tout bon, on a des nuances sur ce monsieur. En 2019, il sort un rapport qui dit une chose de très claire. Quel est le premier frein pour les salariés et notamment pour la jeunesse, pour syndiquer? C'est la peur de la discrimination syndicale, la peur de la répression syndicale. Et en fait, pareil, en le disant, je corrige mon mot, c'est la discrimination patronale, la répression patronale, parce que la radicalité, elle est du côté des patrons, pas du côté des salariés.
Myriam, Myriam, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes se situe en haut de la liste des priorités des jeunes. Comment est-ce que la CGT agit sur ce sujet ?
Alors la CGT est féministe depuis depuis le 52e congrès, c'est revendiqué comme féministe. Donc
c'était
là,
en quelle année le 52e congrès ?
C'était il y a 6-7 ans maintenant.
Okay.
Et donc c'était un point important de notre organisation. On a voté la parité au sein de la direction de la CGT depuis 1999.
Okay.
Donc en fait, ça fait longtemps qu'on mène une activité féministe et on avait même une cellule de veille de lutte contre les violences sexistes et sexuelles depuis 2016, donc avant le MeToo, pour qu'il n'y ait pas de violences sexistes et sexuelles au sein de notre organisation. Donc les enjeux féministes, les enjeux environnementaux sont aussi des points de levier de syndicalisation de la jeunesse, et puis c'est, ça fait vivre aussi les valeurs fondamentales de la CGT.
Emilio, il y a un chiffre dans ce sondage qui t'inquiète. Une des priorités des jeunes, c'est de défendre ses droits sans craindre des conséquences négatives. Qu'est-ce que ça dit de leur état d'esprit ?
Oui, bah c'est ce que je disais, mais Thomas l'a évoqué, en fait, c'est sur la peur de la discrimination syndicale. On a tellement peur de se prendre le ciel sur la tête dès qu'on lève le petit doigt dans une entreprise que c'est quand même dingue aujourd'hui que les jeunes, la première chose qu'ils disent, c'est, en fait, ce que ça traduit, ça veut dire on a peur de se syndiquer. Pourquoi cette peur ? Parce que la répression patronale, t'as raison de changer le mot d'ailleurs Thomas, parce qu'en fait la bataille c'est une bataille sémantique aussi, c'est pas une répression syndicale, c'est les patrons qui tapent sur les syndiqués. Et donc il y a cette peur qui empêche la syndicalisation. Et moi en fait c'était une question que je voulais poser à nos deux camarades syndicaux. Comment concrètement, c'est quoi les clés en fait pour les personnes au plus près dans les boîtes, justement pour dire à ces jeunes, en fait rejoignez-nous. Parce que la force, elle est avec nous, elle n'est pas si vous êtes tout seul. Comment on peut faire ça,
Myriam ?
Je vais abonder sur ce que tu dis sur la répression patronale. Depuis le mouvement contre la réforme de 2023, on a eu énormément de répression patronale et de répression même du gouvernement, avec énormément de camarades inquiétés et beaucoup de camarades de l'énergie qui avaient eu des poursuites. Donc c'est plus de 1000 militants et militantes qui ont été inquiétés. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a une militante qui est allée au tribunal, c'est Céline Verzelitti au tribunal d'Aix-en-Provence, et c'est pas la seule de la direction confédérale, donc des plus hautes instances de la CGT à avoir été inquiétée. Donc ça, c'est des signaux gouvernementaux extrêmement graves donnés au patronat et qui du coup applique aussi la répression en entreprise. Alors finalement, la solution à ces répressions, c'est de se syndiquer en nombre. Parce que qu'est-ce qui inverse le rapport de force ? Qu'est-ce qui permet de pouvoir avoir le rapport de force auprès du patronat ? C'est justement d'être nombreux, nombreuses syndiqués dans l'entreprise. Donc en fait, c'est plutôt un cercle vertueux. C'est plus on est nombreux syndiqués, moins le patronat aura de force et moins il pourra réprimer.
Et je crois d'ailleurs que plus il y a de syndiqués, plus les gens sont mieux payés. Mieux les gens sont payés.
Oui.
Qu'on constate
oui,
dans les
oui,
études.
Oui, c'est une vraie statistique, ça. C'est partout où il y a une organisation syndicale et notamment et non. Surtout le syndicat de la CGT, mieux les salariés sont payés en entreprise.
Non, mais je voulais rebondir en 10 secondes sur ce que tu disais, parce qu'en fait, l'exemple concret qui me vient en tête, c'est un militant CGT, Christian Porta, qui a subi une répression patronale inouïe, c'est-à-dire parce qu'il était délégué syndical, en fait, ils ont essayé de le virer à tout prix. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il y avait tout son collectif de collègues qui ont fait grève pour qu'il soit réintégré. Ça a marché. Ensuite, le patronat était tellement radicalisé qu'ils ont retenté ensuite de le licencier. Alors, je crois qu'ils ont perdu au prud'homme, etc. Mais effectivement, la leçon qu'on peut tirer de cet exemple, c'est qu'en fait, quand le collectif est derrière toi, c'est rare qu'il t'arrive quelque chose, parce que de toute façon, c'est la seule force que tu as en réalité, quoi.
L'organisation collective fait basculer le patronat.
Toi, Safia, tu t'es syndiquée relativement jeune. Qu'est-ce qui t'a amené à te syndiquer ?
Alors moi, j'étais syndicaliste lycéenne. Je me suis syndicalisée, oui, c'est ça, j'avais 17 ans. Et alors, effectivement, le contexte qui m'a poussée à être syndicaliste, en fait, il a rejoint... Alors, il y avait la question de l'antiracisme. Je suis militante antiraciste, c'est-à-dire, après les attentats de 2015, j'ai été frappée par la violence et ensuite par le contexte islamophobe qui s'en est suivi. Et en fait, quand j'arrive au lycée, il y a toute la question de la sélection universitaire et en même temps le mouvement des Gilets jaunes. En fait, je fais un peu une connexion dans ma tête en me disant qu'on n'arrivera pas à faire avancer les questions antiracistes sans faire avancer le mouvement social, le mouvement étudiant, le mouvement lycéen et le mouvement ouvrier qui a les capacités et le rapport de force pour pouvoir faire basculer les choses, y compris sur les questions antiracistes. Du coup, moi, en fait, quand je me syndicalise, je commence à me faire ma petite matrice en mode, voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout ce truc-là, sélection universitaire, Gilets jaunes. En fait, je sens que ça bouge. Et effectivement, quand ça bouge, il y a un effet positif, il y a un cercle vertueux, en fait, qui se produit. C'est que quand tu vois les gens bouger, quand tu vois que les gens ont une radicalité, qu'ils ont la capacité de bloquer, ça te donne envie de t'engager. Et moi, cette séquence-là, Gilets jaunes, je vous avoue qu'elle m'a beaucoup marquée et qu'elle m'a poussée, en fait, à être syndicaliste lycéenne. Et après, ça m'a ouvert d'autres portes dans l'engagement, quoi, finalement.
Tu faisais des liens avec l'antiracisme, il y a aussi des liens à faire avec les sujets internationaux. On voulait parler de la mobilisation des dockers de Fos-sur-Mer. C'était la semaine dernière que les dockers du port de Fos-sur-Mer ont refusé de charger une cargaison de pièces détachées de fusils mitrailleurs destinées à Israël. Une action, Myriam, je me tourne vers toi, une action qui s'inscrit dans une longue tradition de solidarité et d'engagement international de la CGT.
Oui, alors c'est une action dont on est très fiers et on sait qu'elle est extrêmement importante pour le monde du travail puisque justement, elle prouve que lorsqu'on est organisé, lorsqu'on est nombreux dans une entreprise, eh ben on peut changer le cours des événements. Et là, on a changé le cours des événements, on peut agir même sur le cours des événements internationaux. Il faut savoir que dans les valeurs de la CGT, il y a la valeur internationaliste et il y a les valeurs de paix. Et on est un soutien à la Palestine depuis la création, depuis de nombreuses décennies. Donc les dockers continuent à bloquer les conteneurs là où ils savent qu'il y a des matériaux qui peuvent être livrés au gouvernement de Netanyahou. C'est pas la seule entreprise qui agit sur le sujet, justement. Ça fait boule de neige et c'est extrêmement rassurant. On a le camarade Emmerich, on a ST Microélectronique qui a demandé à sa direction de ne plus agir sur des de ne plus produire des matériaux qui pourraient être livrés à l'armement de Netanyahou. On a les douanes qui ont aussi mis en demeure leur direction de ne plus faire de livraison. Et donc voilà, donc c'est vous montrer à quel point on a toutes et tous la capacité d'agir, même à ce niveau-là. Et donc on demande à ce que ça fasse boule de neige et à ce que tous les militants, militantes et les citoyens, citoyennes, le monde du travail se réveillent pour pouvoir se mobiliser. Demain, il y aura des manifestations à l'appel des organisations syndicales, puisqu'il y a une conférence à New York du 17 au 21 juin. Mais tu voulais peut-être en parler concernant la Palestine. Et on aura tout à l'heure la chance et l'immense honneur d'avoir parmi nous l'ambassadrice de Palestine, avec qui on travaille, avec qui on a des contacts extrêmement réguliers, qui nous fera l'honneur de venir pour les 130 ans de la CGT, pour pouvoir aussi nous apporter des témoignages et ses besoins.
Safia, on observe le même type de mouvement, mais dans d'autres ports de la Méditerranée, pas seulement à Fos-sur-Mer. C'est en train de faire tache d'huile ?
Bien sûr, en fait, après que les dockers de Fos-sur-Mer aient retiré deux conteneurs du bateau, et en fait, ces deux conteneurs, c'est des munitions qui venaient d'Eurolinks, qui est une entreprise d'armement, en fait, à proximité de Marseille, cet appel, il a été reçu par les dockers de Gênes. Les dockers de Gênes, ils ont une tradition internationaliste extrêmement ancrée, c'est la Calpe Genova, et en fait, ces dockers-là, ils se sont toujours mobilisés pour la paix entre les peuples, pour l'internationalisme, et finalement, contre la guerre, et en fait, ils ont reçu du coup cette initiative des dockers de Marseille avec beaucoup d'enthousiasme, et à leur tour ils ont fait un sit-in sur le port et ils ont retiré un conteneur qui contenait des munitions pour l'armement à destination d'Israël. Et en fait, ça a fait effectivement tache d'huile dans d'autres villes d'Europe, et moi ça m'a fait remarquer deux choses: cette solidarité internationale entre dockers et plus largement entre travailleurs, c'est que cette méthode de la classe ouvrière, elle a un potentiel incroyable, qui est qu'en fait, s'ils décident de bloquer, ben en fait c'est bloqué et c'est pas Macron qui ira mettre des munitions dans sa poche pour les donner à Netanyahou. Ça c'est la première chose moi qui je vous avoue m'a fait un bien extrêmement fort, parce qu'en tant qu'étudiant on a fait des campements, on s'est mobilisé. Je pense que les étudiants on peut insuffler des idées de la radicalité, mais en dernière instance c'est la classe ouvrière qui a les méthodes pour pouvoir bloquer les armes et changer la société. Et il y a aussi une deuxième chose que le blocage des dockers de Fos-sur-Mer comme de Gênes ont montré, c'est que la France continue de livrer des armes à Israël, contrairement à ce que dit Sébastien Lecornu, et que la France, elle a tenté de réprimer Ariane Lavrieux, journaliste de Disclose, qui a révélé comment la France livrait encore des armes à Israël. Et en cela, je pense que c'était une dynamite positive pour notre camp qui, moi, m'a fait énormément de bien, et j'espère que ce mouvement à l'initiative des dockers va continuer.
Emilio, bravo. Emilio, l'engagement internationaliste de la CGT, on le retrouve également avec l'initiative de la flottille pour la liberté, c'est ça?
Oui, et ben justement, sur la flottille qui a été arraisonnée, on le rappelle, dans les eaux internationales et pas les eaux israéliennes, comme le répète l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères français.
Jean-Noël Barrot, il a dit ça?
Non, c'est les Israéliens qui disent dans les eaux israéliennes. En fait, ouais. Les eaux israéliennes, à ce moment-là, d'ailleurs, n'existent pas, parce que ce sont les eaux palestiniennes qui se trouvent devant la bande de Gaza. Et donc, cette flottille, il y a des figures militantes qui sont les plus identifiées, Rima Hassan, Greta Thunberg, mais elles n'étaient pas toutes seules dans ce bateau. Il y avait 12 militants et militantes, notamment un militant de la CGT, Pascal Morieras, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est le CGT marin. Il y a aussi d'ailleurs un journaliste de Blast, Yanis Bamdi, et qui sont toujours retenus en Israël, illégalement par le gouvernement israélien. En plus, là, ça va vraiment se compliquer pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un soutien énorme pour que la diplomatie française se bouge, ce qu'elle ne fait absolument pas. C'est qu'avec le bombardement, les bombardements israéliens sur l'Iran, eh bien, l'espace aérien est fermé et donc ils ne peuvent pas partir. Aujourd'hui, ils risquent d'être plusieurs semaines retenus encore illégalement par le gouvernement israélien. Et donc, il y a besoin d'une mobilisation quand même énorme pour pouvoir les sortir de là. À minima, peut-être qu'ils aillent dans l'ambassade, qu'ils puissent sortir via un autre pays. Mais en fait, il faut une mobilisation, une très large mobilisation. On l'a vu, elle existe. On l'a vu Place de la République et dans plusieurs lieux du pays. Parce que aujourd'hui, le rapport de force, puisqu'on parle de rapport de force, c'est bien le gouvernement de Netanyahou qui est en train de le perdre. Tu parlais du sommet. En fait, la pression s'accentue aussi pour une reconnaissance massive de l'État palestinien depuis New York la semaine prochaine. Et tout ça, c'est grâce à la mobilisation des peuples. En fait, c'est les gouvernements, ils ne changent pas de pied comme ça. C'est parce que les gens se mobilisent. Là, ça fait plus d'un an et demi maintenant, quand même, que la répression s'abat. Là, le génocide sur Gaza est maintenant établi. Quand on voit les discours des ministres de Netanyahou qui ne laissent aucune place au doute quant à leurs intentions, et donc c'est la mobilisation, y compris des syndicats, qui fait bouger les choses.
Thomas, on a vu dans le sondage que les sujets de solidarité internationale et de défense des droits humains étaient une priorité pour les jeunes. Est-ce que la CGT fonde son espoir aussi de syndiquer davantage de jeunes là-dessus?
Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les préoccupations de la jeunesse, elles sont en phase avec l'histoire de la CGT et les mobilisations. Maryse Dumas, tout à l'heure, a beaucoup insisté sur ça, sur la solidarité internationale contre la mise en concurrence des travailleuses et travailleurs à travers le monde. Ben, le salariat s'organise, y compris de manière internationale. Ça aussi, c'est méconnu en France. Il y a la CES en Europe et la CSI dans le monde. En fait, la première force, c'est la Confédération syndicale internationale. Okay. Et ça regroupe la totalité des organisations syndicales de la planète. Et d'ailleurs, sur la question palestinienne, ils viennent de prendre enfin une délibération pour pousser à ce que, enfin, le massacre s'arrête à Gaza, évidemment, et que la Palestine, qui est la question des deux États, etc., etc. Mais ce qui a été évoqué précédemment, il y a un élément complémentaire. C'est-à-dire que quand on est un syndicaliste, on n'agit pas à l'extérieur. On agit à l'extérieur. On peut aussi, Myriam a dit que demain, les deux premières organisations confédérales de ce pays, la CGT et la CFDT, appellent ensemble aux mobilisations pour arrêter le massacre à Gaza et qu'il y ait enfin la paix en Palestine. Et aussi pour caractériser, c'est-à-dire qu'en face de nous, Netanyahou, c'est pas un, on le précise, il fait partie des gouvernements réactionnaires d'extrême droite, il faut le dire, et c'est contre ceci et contre cela qu'on s'attaque, qu'on essaie de résister. C'est vrai sur ce qu'on dit dans nos propos et c'est vrai sur ce qu'on dit dans nos actes. à la fois des éléments les plus compliqués et courageux que sont les dockers qui ont été évoqués. Je le dis, il n'y aurait pas eu de syndicats, il n'y aurait pas eu ça. C'est extrêmement important. Et ensuite, c'est aussi le travail qu'on fait à l'intérieur des entreprises, comme celui-là d'acte de bravoure, j'ai envie de dire, qui est dans la tradition historique de la CGT, mais aussi celle du quotidien qui permet de visibiliser, d'expliquer à ses collègues de travail l'inverse de ce qui est raconté là aussi à la télé, parce qu'on le sait. Sur la question de la solidarité internationale comme de l'extrême droite, ce qui va compter, ce qui va déterminer pour changer, c'est pas juste les discussions qu'on a entre nous, et c'est bien qu'il y ait ces éléments qui puissent être diffusés, mais c'est aussi au quotidien, les discussions au bugna-bugne, à la machine à café, dans les services notamment, où on peut faire changer le cours des choses. Et quand on voit, je sais qu'on aura le sujet tout à l'heure, mais quand on voit ce qu'on a fait l'année dernière, puisque Myriam l'évoquait, face à l'extrême droite, Front Populaire, celles et ceux qui, là où l'extrême droite, elle fait 50, 60, 70%, ont été affichés dans leurs entreprises. Le fait que face à l'extrême droite, il faut le Front Populaire pour résister et pour gagner, ça, c'est aussi un acte de bravoure. Le syndicalisme du quotidien, c'est celui qui change concrètement la vie des choses à l'intérieur, entre guillemets, de la société. C'est le moins visibilisé et pourtant, c'est celui qui est le plus efficace de fait.
Mesdames et messieurs, je vais vous conseiller de vous rapprocher de la scène parce que nous allons enchaîner dans cette émission. N'hésitez pas, il fait de plus en plus frais quand on est proche de la scène. Vous allez voir.
C'est faux, ouais. C'est, ouais, je
suis en fait, il débite le soleil là.
Moi, j'avoue que j'ai l'impression d'être une merguez là, mais.
L'impression d'être une merguez, oui, mais nous on est au service du public, tu vois. Non, mais t'inquiète. On va enchaîner, mesdames et messieurs. Avant de recevoir notre invitée politique cette semaine, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour notre invité suivant, Edoui Plenel. Bonsoir, cher Edoui.
Salut à toutes et tous. Et vive la CGT. Ouais. J'ai cofondé la section CGT des journalistes au Monde il y a très très longtemps.
Bravo, ouais. Bravo. De quoi veux-tu nous parler cette semaine,
Edoui ? Eh bien, de cela. Je voudrais rendre hommage au syndicalisme en convoquant une très très longue et très vieille histoire. Nous qui n'avons d'autre propriété que nos bras. C'est ce qu'ont proclamé dans un manifeste 60 ouvriers, travailleurs, en 1864, 30 ans avant la création de la CGT. C'était le manifeste des 60, justement. Et ils disaient aux avocats, aux journalistes, aux médecins qui défendaient à leur place les causes de l'égalité et de l'émancipation, eh bien notre heure est venue. C'est à nous-mêmes de prendre ça en charge, de nous auto-organiser, de nous défendre nous-mêmes. Ils étaient à l'époque classés à ce qu'on appellerait la gauche radicale aujourd'hui. En fait, ils s'appelaient les démosocs. Ils défendaient une république démocratique et sociale. Il a fallu un siècle pour que ce soit dans notre constitution à la libération après la catastrophe européenne. Ils liaient la question sociale et la question démocratique, indissolublement. Et par ailleurs, ils étaient à la première internationale. Ils étaient internationalistes. Ils savaient que la cause des dominés, des opprimés, des exploités est sans frontières, qu'elle n'a pas de nation propriétaire. Alors voilà, agis en ton lieu et pense avec le monde. J'ai voulu convier quelqu'un qui m'est cher à cet événement. Il s'appelle Édouard Glissant et sa recommandation est pour moi une boussole pour tous ceux qui entendent résister aux dominations, aux oppressions et aux exploitations. Vous le connaissez, ce Martiniquais, ce philosophe, ce poète, l'homme du tout monde, le penseur de la relation, fut lui aussi de tous les combats des émancipations, aussi bien contre l'aliénation coloniale que contre la prédation capitaliste. Si je le convoque ici, agis en ton lieu et pense avec le monde, c'est parce que sa formule me semble résumer l'esprit même du syndicalisme dont la CGT est l'emblème en France depuis sa fondation il y a 130 ans à Limoges, le 23 septembre 1895. L'espérance d'égalité, de justice et de dignité n'est pas une doctrine assénée d'en haut par des clercs qui en seraient les gardiens, voire les propriétaires, au nom d'une prétendue juste ligne. Non, elle se construit toujours par en bas, dans les luttes et les solidarités, durant ces moments précieux où l'on se retrouve autour de causes communes, dans un heureux déplacement où l'on échappe des immobilités, des fixités, des fatalités de destin et des assignations à résidence. Dès lors, tout engagement pour un monde meilleur suppose d'agir d'abord en son lieu, là où l'on vit, là où l'on travaille, là où l'on réside, et c'est le sens même du syndicalisme. À rebours de la politique professionnelle et élective, où l'engagement risque trop souvent de devenir un métier carriériste et une ambition personnelle, le syndicalisme originel s'est ainsi affirmé comme une philosophie concrète de l'action, ancrée dans le vécu quotidien des premiers concernés. Nul hasard, d'ailleurs, si à sa source première, l'on trouve une tradition aujourd'hui trop mésestimée, libertaire et anti-autoritaire, qui animait les premières décennies de la CGT, cette tradition qui se méfiait instinctivement des avant-gardes autoproclamées qui prétendent savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, j'ai nommé évidemment la tradition libertaire et anti-autoritaire. L'autre dimension trop oubliée est la dimension internationaliste que le combat de solidarité avec la Palestine comme avec le peuple ukrainien nous rappelle, la dimension internationalisme du syndicalisme dès ses débuts. Quand la CGT naît, l'international, dont les paroles sont du français Eugène Potier et la musique du belge Pierre Degeter, est déjà le chant du mouvement ouvrier. Et la deuxième internationale a déjà fait en 1889, du 1er mai, la journée internationale des travailleurs en écho à la répression de la grève générale pour la journée de 8 heures impulsée par les anarchistes aux États-Unis d'Amérique. En autant alarmant où un capitalisme du désastre impose sa violence prédatrice à tout le vivant du monde, sans limite, sans loi, sans aucun frein, ce souvenir doit nous rappeler que la cause des opprimés, exploités et dominés est forcément sans frontières et que tout repli nationaliste, identitaire ou xénophobe est une concession faite aux ennemis de l'égalité des droits, de la justice sociale et de l'émancipation collective. Merci.
Merci beaucoup, Edoui. Merci pour cet Edouito. On parlait tout à l'heure des jeunes, on parlait tout à l'heure des jeunes et de l'avenir. Est-ce que tu penses que ça peut donner envie aux jeunes de se syndiquer? On voit qu'ils ne le sont pas encore suffisamment.
Oui, il y a un retard français. Par exemple, il y a un taux de syndicalisation beaucoup plus fort en Belgique. Pourtant, on n'est pas très différent. Donc, ce retard, il est sans doute lié à la façon dont le syndicalisme, à mes yeux, ne s'est pas assez affirmé dans son autonomie. Je pense que le syndicalisme, c'est l'auto-organisation des masses, des travailleurs, des premiers concernés. C'est être à l'écoute de ces mouvements spontanés. De ce point de vue, d'ailleurs, nous devons tous y réfléchir. Une occasion a été manquée pour le syndicalisme, comme pour les forces politiques de gauche, au moment des Gilets jaunes. Il faut laisser écouter, accompagner ce qui surgit dans le mouvement même des protestations, dans le mouvement même de l'invention. La Commune de Paris, c'est cela. C'est une invention tragique, mais c'est une invention qui restera un symbole. Alors certains vont en déduire que pour ça, comme elle a échoué, il faut absolument se donner les moyens obsessionnels de conquérir le pouvoir d'État, d'avoir une stratégie de conquête du pouvoir de l'avant-garde. Bien sûr, cela a donné la révolution russe. Mais le chagrin politique du stalinisme, le chagrin politique de la trahison de cette espérance par la bureaucratie, par l'autoritarisme, par la confiscation, par l'étatisme, est beaucoup plus lourd que la défaite de la Commune. Nous ne devons pas céder à ces raccourcis obsessionnels du pouvoir, de l'État, de l'élection. Nous devons d'abord construire la digue dans la société elle-même. Et la responsabilité première aujourd'hui, elle est celle du syndicalisme et de toutes les associations qui l'accompagnent.
Merci beaucoup, Edoui Plenel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Edoui. On va enchaîner, mes chers amis, avec notre invité politique. Cette semaine, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Sophie Binet qui nous rejoint sur le plateau. Ça va, Sophie ?
Je vois que la chaleur est torride.
Absolument, ici c'est absolument terrifiant.
Ah ouais ?
Je le disais, pour celles et ceux qui nous rejoignent en direct sur Twitch ou qui nous regardent en replay sur YouTube, on est ici à l'événement organisé pour les 130 ans de la CGT en direct depuis le parvis de la mairie de Montreuil. C'était important pour la CGT d'organiser un événement pour ces 130 ans, Sophie ?
Oui, c'était indispensable.
Je vous demandais de parler dans le micro.
Voilà. Je m'installe, en fait.
Oui,
c'était indispensable parce que, en fait, ces 130 ans, c'est l'occasion de rappeler un certain nombre de choses, à commencer par le fait que toutes les conquêtes sociales, tous les droits sociaux dont on dispose aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est tombé du ciel. Ils ont tous été arrachés par les luttes et par le syndicalisme et singulièrement par la CGT. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est comme ça qu'on peut se projeter dans l'avenir. Et d'ailleurs, quand on regarde les périodes dans lesquelles on a le plus gagné de conquêtes sociales, 1936, 1945, 1968, par exemple, c'est les périodes où on a le nombre de syndiqués le plus élevé. Plus on a de syndiqués, plus on a de rapports de force, plus on a de droits sociaux. Donc ça, c'est un signal pour aujourd'hui.
On voulait revenir avec toi sur le combat des travailleurs d'ArcelorMittal, un combat d'actualité. L'entreprise veut supprimer 636 emplois. ArcelorMittal estime que la filière acier n'est plus assez compétitive, notamment à cause des normes environnementales et de l'objectif de décarbonation. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, s'il te plaît, les enjeux de ce dossier important ?
Ben en fait, l'acier, c'est central pour l'industrie. On ne peut pas avoir d'industrie sans acier parce que toute l'industrie commence par la production d'acier. Et donc, ArcelorMittal, pour comprendre la situation, il faut faire un peu d'histoire. Il faut revenir à 2006, quand Mittal a fait une OPA sur Arcelor et a racheté Arcelor. À l'époque, Mittal s'était engagé à ne fermer aucun site. C'était il y a 20 ans. Depuis, Mittal a fermé la moitié des sites français d'Arcelor. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas seulement 636 emplois qui sont en jeu. La question, c'est l'avenir même de l'acier en France, parce qu'on sait que si on laisse Mittal supprimer ses 636 emplois, derrière, c'est tout l'acier qui va fermer en France et en Europe, puisque aujourd'hui, la stratégie de Mittal, c'est de délocaliser la production d'acier au Brésil et en Inde. Ils ne le font pas aujourd'hui directement parce qu'ils ne sont pas encore capables de le faire. Ils ont besoin de produire de l'acier vert, c'est-à-dire décarboné. Et donc, ils ont encore besoin de 5 ans pour faire monter en technologie leurs usines. Et donc, c'est une fermeture qui est programmée à terme pour dans 5 ans. Et c'est pour ça que la CGT tire la sonnette d'alarme maintenant, en disant c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si on laisse faire ces 636 emplois, derrière, c'est sûr que c'est tout l'acier qui va plier bagage de France et d'Europe. Et donc, la solution qu'on propose, elle est simple. C'est d'abord, dans l'immédiat, de nationaliser pour protéger l'acier français. C'est ce que font les Britanniques avec British Steel en Grande-Bretagne. Les Italiens ont fait quelque chose d'assez similaire face à ArcelorMittal. Ils ont mis sous tutelle une aciérie pendant un an et comme ça, ils ont eu le temps de trouver un repreneur. Et puis, à moyen terme, ce que nous disons, c'est qu'il faut construire un géant européen de l'acier. Et donc, il faut qu'on invente une forme de nationalisation européenne avec plusieurs États qui rentrent au capital pour nous permettre de reprendre la main sur l'acier européen.
Alors, sur la nationalisation d'ArcelorMittal, Emmanuel Macron a fermé la porte. Il a argumenté en disant que ce serait, je cite, « dépenser des milliards d'euros ». Il préfère donner des garanties de développement à l'entreprise et à une réponse européenne. Qu'est-ce que tu lui réponds à Emmanuel Macron ?
En fait, d'abord, la nationalisation, ça coûte autour de 1 milliard d'euros, donc c'est pas si cher que ça, sachant que l'État s'était déjà engagé à signer un chèque de 850 millions d'euros pour les investissements d'ArcelorMittal, donc on y est presque. Et puis, le problème, en fait, c'est que le débat qu'on a avec la vision industrielle d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement un débat budgétaire. Aujourd'hui, la politique industrielle d'Emmanuel Macron, elle est hyper coûteuse parce que c'est 200 milliards qu'on donne chaque année à nos entreprises sans condition ni contrepartie. Et là, nous, ce que nous disons tout simplement, c'est la première des choses qu'il faudrait faire, c'est ces 850 millions d'euros que l'État s'est engagé à donner. Au lieu de faire un chèque en blanc, comme il est prêt à le faire, ce qu'il faut, c'est rentrer au capital pour comme ça avoir un levier d'action sur l'outil industriel. Et en fait, le point de désaccord avec le gouvernement français et la politique macroniste, il est là, c'est que l'État, Emmanuel Macron, refuse d'agir sur l'économie pour laisser la bride sur le cou aux multinationales et leur laisser faire la pluie et le beau temps. Et pourquoi est-ce qu'il refuse de faire ça? Parce qu'il veut pas faire peur aux investisseurs. Vous vous souvenez peut-être, en octobre dernier, il y avait l'histoire de la cession par Sanofi de Doliprane, donc un fleuron français. Cession à un fonds américain. Et à l'époque, on a été très nombreux et nombreuses à dire que l'État pouvait agir parce qu'il a la possibilité, par décret, d'empêcher la vente d'actifs stratégiques. C'est le cas pour Doliprane. Emmanuel Macron a refusé de le faire et il a expliqué que c'était pour ne pas faire peur aux investisseurs qu'il ne faisait pas ça. Donc le problème, il est là.
Safia ?
Oui, bonjour Sophie. Bon, on se connaît pas, mais je permets de tutoyer. On est syndicalistes, hein, d'accord ?
Entre camarades, on se tutoie
entre
alors.
Entre camarades, on se tutoie. Mais en fait, ce qui me paraissait important de dire, premièrement, la remise en contexte sur la dynamique d'ArcelorMittal, elle est importante. Moi, j'aurais dit que c'est une trumpisation en fait du contexte actuel, où en fait, on a des ArcelorMittal, des entreprises qui se permettent de remettre en question tout un environnement industriel dans un pays pour leur profit, pour des dynamiques en fait de délocalisation, etc. Je pense que dans le contexte de l'élection de Trump, c'est extrêmement prenant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont ils vont essayer de capitaliser sur la question écologique pour pouvoir se permettre d'aller délocaliser ensuite. Ensuite, tu es revenu sur le fait que la nationalisation d'État, elle a été refusée par Emmanuel Macron. Jean-Pascal Delescot de l'UDCGT Nord, face à ce contexte, il a proposé la nationalisation sous contrôle ouvrier en rappelant une chose qui, à mon sens, est importante, c'est que de toute façon, entre guillemets, c'est pas le service RH d'ArcelorMittal qui sait faire de l'acier, ce sont les ouvriers d'ArcelorMittal qui savent faire de l'acier. Est-ce que, face à la décision de Macron, la solution, ce n'est pas d'appeler à la nationalisation sous contrôle ouvrier?
Oui, bien sûr. De toutes les manières, notre vision de la nationalisation, c'est celle-là. On veut que ça soit les travailleurs et les travailleuses qui décident, et nous défendons ça d'ailleurs pour l'ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas nationalisées. La bataille, c'est qu'on ait des leviers d'intervention stratégiques sur les entreprises de l'intérieur. Nous voulons pouvoir, par exemple, contrôler les aides publiques. Ça serait super simple. Il faudrait mettre un avis conforme des CSE pour qu'on puisse avoir un droit de veto sur les aides publiques, par exemple. Nous voulons pouvoir intervenir, bloquer des cessions, des rachats pour des entreprises. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui sur l'industrie, c'est que les salariés, on est sur des strapontins. On n'a pas de droit d'intervention sur les orientations stratégiques. Ce que nous disons, c'est que les richesses, c'est nous qui les produisons par notre travail. Nous devons avoir des droits pour les orienter vers le progrès social et environnemental. Et notre slogan à ArcelorMittal, c'est « on peut faire du métal sans métal ».
L'un des arguments aussi d'Arcelor, c'est ils mettent la pression sur Bruxelles pour que ce soit Bruxelles qui finance la décarbonation des usines. Est-ce que l'Europe doit céder à ce chantage ?
Non, évidemment. Ce qu'il faut par contre, c'est protéger l'industrie européenne. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème de dumping social, fiscal et environnemental qui se fait là, par exemple, avec de l'acier produit à bas coût en Asie. Donc il faut imposer des droits de douane qui soient modulés en fonction des normes sociales, environnementales et fiscales pour tirer les droits vers le haut. Et puis, il faut aussi, au niveau européen, harmoniser les normes sociales, fiscales et environnementales, parce que je rappelle quand même que le premier lieu de délocalisation, c'est pas la Chine, c'est l'Europe, parce que les premiers paradis fiscaux sont en Europe, parce qu'il y a des écarts de salaire et de protection sociale très importants en Europe. Donc il faut harmoniser les droits au niveau européen vers le haut, alors que le patronat, aujourd'hui, veut imposer un choc de simplification, soi-disant, mais ça veut dire, quand on dit « traduisons-les », ça c'est du langage marketing, donc il faut les traduire. Simplifier égale revenir sur nos droits et sur les normes environnementales. Et donc c'est ça que le patronat veut faire aujourd'hui, et donc c'est un non-sens complet, parce que ça va augmenter au contraire les délocalisations et la concurrence internationale.
Emilio ?
Bonjour Sophie, tu as dit le mot aide publique. Il y a une commission d'enquête qui tombe à pic, il y en a deux en réalité, mais il y a celle donc du sénateur communiste qui se trouve être par ailleurs le directeur de l'UMA, Fabien Gay, sur les aides publiques aux entreprises. Il y a aussi la commission du député écologiste Benjamin Lucas sur les licenciements. Je crois que tu as été auditionné par les deux. C'est 200 milliards d'euros par an, sans condition, ni sociale, ni environnementale. Et toi, quel bilan tu tires de ces aides publiques aux entreprises ?
D'abord, ça coûte un pognon de dingue. C'est, il faut le dire, en reprenant les termes de notre méprisant de la République. Et ensuite, ces aides publiques, elles n'ont pas toujours existé, en fait. Ça a été multiplié par 10 en quelques années.
Mais il faut les garder.
Comment ?
Il faut en garder, des aides publiques, ou pas ?
Ben, en fait, il faut les conditionner, les cibler, les évaluer. Par exemple, aujourd'hui, toutes les entreprises bénéficient d'aides publiques, soi-disant parce que en face, il y a la concurrence internationale. Mais toutes les entreprises ne sont pas exposées à la concurrence. Le premier bénéficiaire des aides publiques en France, c'est la grande distribution. En quoi est-ce que la grande distribution a besoin d'aides publiques ? Pas du tout. Et puis ensuite, c'est juste un scandale de donner des aides publiques à des entreprises qui licencient. Sanofi a embauché 1 milliard d'euros de crédit impôt recherche en 10 ans et dans le même temps a divisé son nombre de chercheurs par 2. C'est pas possible, ça. Donc il faut cibler les aides sur les entreprises qui en ont besoin, à savoir les plus petites et celles qui sont exposées à la concurrence, et surtout les assortir de conditions sociales et environnementales pour comme ça pouvoir transformer l'outil productif. Et puis, je pense qu'il faut baisser le volume. 200 milliards, c'est une catastrophe. Là, on est sur une drogue dure quand même. Il faut que le patronat se sèvre.
Mais si, c'est pas, si elles ne sont pas respectées, imagine demain, il y a les conditions, les conditionnalités qui sont mises en place. Elles sont pas respectées. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'elles remboursent ? Ou est-ce que c'est comme les socialistes, des prises de participation du coup dans la boîte ?
Et oui, il y a plein de moyens. Ça peut être d'abord le remboursement. Et puis déjà, rien que le fait de stopper l'aide, c'est un vrai signal. Et donc, c'est pour ça que nous, une des choses toutes simples que nous demandons, c'est qu'une entreprise ne puisse toucher d'aide publique que si les représentants du personnel le valident. Ça, déjà, ça permet de mettre un petit contrôle social et environnemental, et ça permet aussi qu'on soit informé. Parce que souvent, on n'est même pas informé du montant des aides publiques que touche notre propre entreprise et de ce à quoi, soi-disant, elle se serait engagée.
Thomas ?
C'est le scandale national dont on parlait tout à l'heure, 200 milliards, Sophie l'a extrêmement bien expliqué. Il y a les deux parties, les aides directes ou indirectes aux entreprises en fonction des investissements, pardon, et de l'autre côté, toute la partie exonération de cotisations. On a beaucoup insisté tout à l'heure sur la question du brut et du net. Mmh. On a aussi insisté sur le fait que, par exemple, les jeunes, puisque c'était ta question de tout à l'heure, ils s'en fichaient totalement, ils voulaient de l'argent maintenant, etc. Les salaires sont trop bas, donc il faut augmenter les salaires. Et les jeunes ont raison d'avoir comme première préoccupation, comme la population, d'augmenter les salaires. Mais quand on discute avec des jeunes, puisque c'est ce qu'on a fait toute la journée notamment, quand on discute, bah, toutes et tous, ils sont confrontés au chômage et à la précarité. Et ils se rendent bien compte que s'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de droit. Et c'est pour ça qu'on valorise ces éléments-là. Le salaire net, c'est pour le mois. Et le salaire brut, ça donne des droits. Et ce salaire brut-là, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Et c'est ce qui est de plus en plus exonéré, comme on vient de le dire, où moins bien tu payes les salariés, plus tu as des aides publiques aux entreprises privées, sans contrôle, sans contrepartie et sans rien savoir de ce qui s'y fait.
L'État s'est engagé financièrement dans le projet de reprise de la papeterie Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime, ce qui va permettre de sauver 200 emplois. Comment est-ce que vous avez décroché cette victoire ?
Eh bien, en 2096 jours de lutte, donc grâce à... On peut les applaudir.
On peut les applaudir très fort.
Et ils vont être là tout à l'heure pour raconter cette lutte. Donc restez là, vous l'entendrez de leur bouche. Comment est-ce qu'on fait ? C'est la victoire des 217 PAPCHAP, parce que c'est 217 salariés qui travaillaient dans cette usine. C'est l'acharnement des 3 délégués CGT qui a payé parce qu'ils n'ont pas lâché pendant 5 ans. Et puis ensuite, comment on a fait ? Ben, on a construit des coalitions larges, notamment avec les élus locaux qui ont joué un rôle important dans cette mobilisation. Et surtout, on a construit un contre-projet CGT. Moi, ce qui m'impressionne dans la lutte syndicale et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, les militants syndicaux, on est spécialistes en économie, en fiscalité, en droit, en industrie. Et là, en l'occurrence, Chapelle d'Arblay, c'est la CGT qui a construit le projet industriel, qui allait chercher des investisseurs, qui a construit aussi le projet environnemental, parce que ce qui est super avec cette histoire, c'est que c'est un projet qui coche toutes les cases d'un point de vue environnemental. Ça évite que le papier que nous produisons en France parte se faire recycler en Allemagne, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça va limiter les camions sur les routes, le papier va être recyclé en France. Et puis ensuite, dans le projet, on a travaillé le fait que la chaleur de l'usine soit utilisée pour chauffer toute l'agglomération autour, avec les villes, pour le réseau de chaleur. On a travaillé une chaudière à la biomasse, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail très fin. Et c'est vrai que je trouve que de ça, on en parle très peu, en fait, quand on parle du syndicalisme. À la télé, on voit le syndicalisme que quand on bloque, entre guillemets, certains secteurs. Mais tout ce travail du quotidien, on n'en parle jamais. Alors, c'est ce qui fait la vraie richesse de l'action syndicale. Notre slogan à la CGT, c'est « Tout est à nous ». Et finalement, Chapelle d'Arblay, comme toutes nos luttes, ça montre ça. Nous, notre objectif, c'est de jouer sur tout le terrain de jeu. Certainement pas de rester sur le banc de touche, on rentre sur le terrain. Et puis sur le terrain, on joue pas seulement en défense et dans les buts, on occupe tous les postes, évidemment les postes d'attaquants. Et puis, bah, pourquoi pas l'arbitrage ? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les règles du jeu sont totalement déséquilibrées. C'est pas normal qu'il faille 296 jours pour sauver 200 emplois. Ça devrait être beaucoup plus facile, on devrait avoir tous les pouvoirs publics autour de nous. Le problème, c'est qu'on est seul contre tous dans ces batailles-là. C'est ça qu'il faut changer.
Safia.
Ouais, j'ai une question ou un commentaire en fait qui s'inscrit dans ce que tu viens de dire. C'est tout est à nous, rien n'est à eux et tout ce qu'ils l'ont, ils l'ont volé. Et la bataille pour sauvegarder son emploi, son travail, parce qu'en fait c'est un enjeu de vie ou de mort en réalité, pour vivre quand on a une famille, etc. C'est d'autant plus actuel que le 28 mai, la CGT est revenue sur le nombre de PSE qui ont lieu en France, qui sont aux alentours de 400, si je ne dis pas de bêtises. C'est 300 000 emplois en France.
Un PSE qui,
de plan, alors, plan de sauvegarde de l'emploi, mais ça porte très très mal son nom. C'est les RH,
c'est
en fait,
qui vont appeler
ça comme ça. Mais ce sont des plans de licenciement, ça n'a rien à voir en termes de sauvegarde de l'emploi, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ça c'est dit.
Merci.
Mais ce que je voulais dire, et ce qui est important, c'est que ces batailles, elles ont lieu dans ce contexte-là. Je sais pas, est-ce que tu as envie de réagir ? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Parce que c'est pas anodin comme contexte.
Ben oui, et en fait, la CGT, donc depuis un an, tire la sonnette d'alarme sur la désindustrialisation. Nous avons lancé notre carte de France des plans de licenciement pour mettre fin au grand mensonge gouvernemental. Parce que quand même, jusque-là, ce qu'on entendait, c'est Emmanuel Macron qui se félicitait des milliards d'investissements et de tous les nouveaux data centers qu'il ouvrait en France. Bon, bah, leçon numéro un, monsieur Macron, l'industrie, c'est pas les data centers. Et leçon numéro 2, aujourd'hui, maintenant, malheureusement, on supprime plus d'emplois industriels qu'on en crée. Et le problème, c'est que les plans de licenciement se multiplient. Donc ça a été notre première stratégie, rendre visible et casser le mensonge gouvernemental et le marketing. Et le deuxième point de la stratégie CGT, c'est de dire, nous ne sommes pas là pour le chèque. Nous ne sommes pas là pour l'opération pièce jaune du PSE où on va négocier la prime. Nous, on est là pour défendre l'emploi. Et donc, on refuse les licenciements et on construit des contre-projets pour garantir la reprise, l'avenir de l'outil de production, parce que c'est ça l'essentiel. Et quelque part, c'est aussi la bataille de la dignité. Nous, on n'est pas là pour mendier des primes de ces mêmes personnes qui, après, iront stigmatiser les chômeurs en disant que les chômeurs sont des assistés et des fainéants. Nous, on est là pour défendre notre droit au travail. C'est un droit constitutionnel, je le rappelle.
Myriam, est-ce que tu veux intervenir ? Tu veux intervenir ou pas ?
Sophie a dit beaucoup.
C'est bon, il marche, ouais.
Si, bon, ça marche ?
Ouais.
Pardon, excuse-moi. Oui, Sophie et Thomas ont dit beaucoup de choses, mais c'est aussi l'irresponsabilité du gouvernement, puisque, comme l'a dit Sophie, la sonnette d'alarme a été sonnée il y a plus d'un an. Et entre-temps, il ne s'est rien passé de la part du gouvernement. Il n'y a aucun plan d'action concrète qui a été mis en place. Et heureusement que la CGT et le monde du travail est là pour faire des contre-projets et puis pour pouvoir sauver les entreprises. Et heureusement que la CGT est là pour sauver l'industrie française.
Alors, j'ai vu aussi que l'articulation entre l'écologie et l'emploi était un des grands enjeux du dernier congrès de la CGT. Comment vous articulez les deux ?
Bah, vaste sujet, ça va être aussi un des grands enjeux de notre prochain congrès parce que, en fait, c'est une question centrale qui explique d'ailleurs la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Aujourd'hui, pour répondre aux défis environnementaux, il faut poser la question sociale, il faut transformer l'outil productif. Le problème, c'est que si on veut répondre à la question environnementale, il faut revoir le partage des richesses. On sait que la crise environnementale, elle n'est pas liée à l'humain, à l'anthropocène, elle est liée au capitalocène. Et c'est le problème du capitalisme qui crée cette crise environnementale. Et le souci, c'est que aujourd'hui, le capital refuse de revenir sur le partage des richesses. Et donc, les seules fois où on parle environnement, Bah, ça va être, par exemple, on va mettre en place des zones de faible émission pour les circulations en voiture, mais dans le même temps, on va laisser les constructeurs automobiles produire des véhicules électriques qui vont être vendus 30, 40, 50 000 euros, donc inaccessibles pour le commun des mortels. Pourquoi ? Parce qu'on refuse d'agir sur l'économie. Et donc, on a les seules fois où on traite la question environnementale, c'est en la mettant en opposition avec la question sociale et en culpabilisant la majorité de la population qui ne peut pas, du coup, avoir un comportement environnemental « vertueux », entre guillemets. Pour répondre aux défis environnementaux, il faut agir sur la production. Et donc, par exemple, dans cet exemple-là, ce qu'il faut, c'est imposer aux constructeurs automobiles français de construire un véhicule électrique économique en France. C'est possible, c'est ce que fait Nissan au Japon, qui produit un véhicule électrique qui est vendu autour de 15 000 euros et qui est fabriqué au Japon. Renault et Nissan sont mariés, donc pourquoi est-ce que Renault n'est pas capable de faire en France ce que Nissan fait au Japon ? La seule différence, c'est l'État. C'est que l'État, en France, ne force pas Renault à faire ça. Et pourquoi est-ce que les constructeurs automobiles français sortent que des grosses voitures très chères ? Bah, tout simplement parce que c'est le choix des marges. Quand on vend des grosses voitures, on a beaucoup plus de marge. C'est ça le problème.
Tu l'as abordé rapidement, mais on avait envie de t'interroger sur la mobilisation contre l'extrême droite. Lundi dernier, le Rassemblement national a réuni l'extrême droite européenne dans le Loiret. Toi, au même moment, tu étais à la contre-manifestation qui s'est tenue à Montargis. Pourquoi c'était important que la CGT soit représentée ?
Ben, non seulement la CGT a été représentée, mais c'est surtout la CGT qui a initié et qui a organisé. Et donc, je suis très fière de tout ce qu'ont fait les camarades de la CGT de Montargis en 3 semaines. C'était incroyable, avec une initiative qui a été très rassembleuse, qui a rassemblé très très largement. Et c'était indispensable de la faire parce que ce rassemblement des extrêmes droites européennes, c'était le musée des horreurs. Et ça montre que, contrairement à l'opération de ravalement de façade que tentent de faire Marine Le Pen et Jordan Bardella, l'extrême droite française n'a pas changé. Elle est toujours aussi raciste et violente. Dans ce rassemblement, on a quand même eu un certain nombre de dirigeants qui ont expliqué que, en Europe, il fallait expulser massivement les immigrés et les déporter de leur pays, alors que la France, elle est multicolore et que le fait d'être français, c'est pas une question de couleur de peau. Certains ont expliqué que le fait d'être français, ça tenait au sang qui coulait dans ses veines et qu'il fallait avoir un sang français depuis plusieurs générations. Certains ont expliqué que toutes les personnes qui n'étaient pas blanches étaient potentiellement des violeurs. Voilà le type de propos qui ont été tenus dans ce rassemblement qui aurait dû être interdit. C'est une honte. Ces propos, ces comportements sont interdits. C'est de la violence raciste. On ne pouvait pas laisser faire ça sans réaction.
Emilio ?
Je voulais aussi le rappeler, il y a quasiment un an, jour pour jour, il y avait les législatives anticipées, les médias indépendants comme l'Humanité, Mediapart, Blast, Politis, Street Press, Fakir, la CGT, il y avait aussi Attaque pour le côté associatif. Enfin, SOS Racisme, on organisait les grands meetings Place de la République pour essayer d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça, c'est sur le plan national. Mais on voit aussi la place de l'extrême droite, en tout cas, elle grandit, y compris au sein de l'entreprise. La CGT, il n'y a pas de raison qu'elle soit d'ailleurs différente. Il y a probablement des personnes qui sont encartées à la CGT qui aussi votent à l'extrême droite. Il y a des gens dans l'entreprise qui votent à l'extrême droite. Comment est-ce que concrètement, quels sont les leviers en fait possibles pour la CGT pour aussi, au plus près du terrain, empêcher cette montée de l'extrême droite ?
D'abord, ce qui a été aux élections législatives, on a eu un positionnement extrêmement clair. C'est toute la CGT qui s'est mise en ordre de bataille pour empêcher la catastrophe annoncée d'advenir. Et je suis vraiment très fière que, grâce à la mobilisation syndicale, de la société civile, des médias indépendants, etc., on ait empêché cette catastrophe. C'est non seulement une grande fierté, mais c'est aussi un signal d'espoir. Ça veut dire que rien n'est jamais écrit d'avance et que c'est notre mobilisation qui fait la différence. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que nous, on a fait les comptes suite à ce positionnement qui a été très clair, très fort et qui s'est décliné dans toutes les entreprises, on a perdu très peu de cartes, en fait. Il y a très peu de personnes qui ont quitté la CGT. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce positionnement, il n'était pas nouveau. Nos 130 ans aujourd'hui, et nos 130 ans d'histoire, ils ont été jalonnés par cette lutte contre l'extrême droite qui fait l'ADN de la CGT et qui a été permanent. En 1934, la CGT s'est battue pour empêcher aux ligues d'extrême droite d'accéder au pouvoir. Ça a permis d'avoir le Front populaire en 1936. C'est en référence à cette histoire-là qu'au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, la CGT a appelé à la constitution d'un Front populaire. On a été la cheville ouvrière de la résistance en France. On s'est battu en 1962 contre les généraux qui voulaient putscher la République, etc., etc. Donc ça, c'était logique et naturel. Et ce qui a été intéressant, au contraire, c'est que cette mobilisation, elle nous a permis de gagner pas mal de nouveaux syndiqués, de nouveaux et nouvelles syndiqués. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'extrême droite, elle est très dangereuse aujourd'hui parce qu'elle progresse partout, dans toutes les couches de la société, dans toutes les catégories de population, et évidemment aussi sur les lieux de travail dans lesquels nous sommes. Et donc, nous avons des débats très importants pour renforcer notre stratégie syndicale contre l'extrême droite. D'abord, la première chose, c'est de bannir le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Nous avons donc lancé une grande campagne intersyndicale sur les lieux de travail contre le racisme et l'antisémitisme, de faire en sorte que ces propos soient évidemment bannis de nos rangs et d'être très très clairs sur ces questions-là. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est agir sur le terreau, ce sur quoi progresse l'extrême droite. L'extrême droite, elle prospère sur le déclassement du travail qui ne paye plus, le déclassement de nos industries qui plient bagages pour partir à l'autre bout du monde, le déclassement de nos services publics qui ne sont plus à la hauteur. Et donc c'est à ça qu'il faut répondre pour battre l'extrême droite. Dire non ne suffit plus, il faut des perspectives sociales progressistes. Et donc on a besoin aussi que les forces politiques répondent et ouvrent des perspectives. On sait que l'extrême droite, elle prospère aussi sur les trahisons. On a parlé tout à l'heure d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est aussi la chronique des promesses non tenues. Arcelor, c'est Nicolas Sarkozy qui vient à Gandrange et qui dit « il n'y aura pas de licenciement ». 6 mois après, plan de licenciement avec la bénédiction de Sarkozy. Puis c'est à Florange, l'histoire qui se répète avec François Hollande en 2012, qui vient, qui s'engage à ce que Florange ne ferme pas. Et en 2014, qui laisse Florange fermer sans nationaliser ArcelorMittal, alors que c'est ce à quoi il s'était engagé. Donc c'est aussi sur ces trahisons que l'extrême droite progresse. Je le dis, face à l'extrême droite, nous avons besoin d'avoir un camp progressiste, une gauche, qui a le courage d'affronter le capital et d'affronter les puissants. C'est ça qui fait la différence.
J'ai envie de réagir parce qu'en fait, je pense que l'extrême droite prospère non seulement sur les trahisons, mais aussi malheureusement sur les défaites. Et je vois bien qu'en tant que militante antiraciste, quand il y a une défaite du camp social et du mouvement ouvrier, c'est aussi une aubaine pour l'extrême droite et pour les médias bourgeois pour faire en sorte que le racisme et l'islamophobie divisent encore un peu plus la classe, pour faire en sorte que la colère sociale se détourne sur les personnes musulmanes de ce pays. Et là, effectivement, on ne peut pas penser sans penser à la défaite sur la réforme des retraites et à l'imposition d'un le 49-3, malheureusement. Et la question que je pose, c'est quelle perspective de victoire on a après la réforme des retraites? On a beaucoup agité la question de l'unité. On voit que la simple unité ne suffit pas. Il y a une question stratégique derrière et c'est profondément relié avec la lutte contre le racisme.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'extrême droite, elle prospère sur une forme de fatalisme de classe, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on ne pourrait pas gagner face au capital. Et donc, le conflit se décale dans notre classe. Et donc, en fonction de la couleur, de la religion, etc., etc. Et donc, contre l'extrême droite, on a besoin d'ouvrir des perspectives, de donner de l'espoir, de montrer que nos luttes payent. C'est pour ça que la CGT a une stratégie des luttes pour mettre le paquet sur des luttes emblématiques et les mener à la victoire. C'est ce qu'on a fait sur la fonderie de Bretagne, sur la chapelle d'Arblay, sur le conflit de Verbaudet, par exemple, aussi sur les femmes de chambre du Campanile de Suresnes qui ont gagné, qui viendront ce soir pour raconter cette victoire-là. Et c'est toutes ces victoires qui donnent le courage et ouvrent des perspectives et qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas mis le paquet tous ensemble parce que la mobilisation de ces salariés était exemplaire. Ils étaient à leur niveau maximum de grève, en durée, en intensité. Mais face à la radicalisation du patronat, c'était bloqué. Donc ça, c'est la première chose de nos stratégies, multiplier les luttes gagnantes pour que ça dynamise la syndicalisation et ça donne envie à d'autres salariés d'entrer dans la bataille. On voit par exemple la force de l'action des dockers et des portuaires de Fos. Bah, ça, c'est une dynamique géniale pour le mouvement social. Ensuite, quelle stratégie sur... On peut les applaudir. quelle stratégie sur la question des retraites? C'est ne pas lâcher. Ne pas lâcher, c'est ce que fait la CGT. On a gagné le 5 juin dernier que l'Assemblée nationale vote enfin sur la réforme des retraites. Ça fait 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron empêchait ce vote. Il a eu lieu le 5 juin dernier et il a été sans appel. 198 députés ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et il y en a 35 qui n'étaient pas d'accord. Bon, voilà, c'est dur d'être minoritaire, je les plains. Mais le résultat était sans appel. Donc ça, c'est un camouflet pour le gouvernement. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Un certain nombre de médias et de ministres, d'ailleurs, ont dit « Ah non, mais tout ça, c'est un vote symbolique ». Bon, s'ils pensent que les députés sont symboliques, moi je leur rappelle que c'est les députés qui ont censuré le précédent gouvernement et que les gouvernements ne tiennent que parce que les députés ne les censurent pas. Donc maintenant, j'appelle les députés à se faire respecter, à faire respecter leur vote et à exiger que le gouvernement abroge la réforme des retraites.
Et quand tu es reçu à Matignon ou à l'Élysée et que tu demandes au chef de l'État, au Premier ministre d'organiser ce référendum, ils te répondent quoi? C'est quoi leur argument?
Bah, vous l'avez vu en direct avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'argument, en fait. Il n'y a pas d'argument. Le seul argument, c'est que ça coûte trop cher. Donc, nous, on a une série de propositions. En fait, ça coûte 10 milliards d'euros, l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, on a une longue série de propositions. Si on faisait l'égalité salariale et professionnelle, ça financerait au moins la moitié de l'abrogation de la réforme des retraites. On taxait les dividendes et qu'on les faisait contribuer au même niveau que le travail, bah là, on pourrait quasiment financer la retraite à 60 ans. On peut aussi soumettre à cotisation tous les revenus du travail, à savoir les primes, l'intéressement, la participation sur lesquelles on cotise pas. Voilà, c'est plein de propositions très simples qui seraient loin de couler le pays et qui permettraient de financer immédiatement l'abrogation de la réforme des retraites et à moyen terme même le retour de la retraite à 60 ans parce que c'est notre objectif.
Thomas, je me tourne vers toi parce que la lutte contre l'extrême droite, tu m'as dit que ça se passait aussi par les délégués syndicaux de manière très concrète dans les entreprises. Comment on fait pour lutter contre l'extrême droite sur le terrain ?
Il y a ce qui a été évoqué, on mène une campagne contre l'extrême droite et l'antisémitisme d'ailleurs, avec une campagne d'affichage dans les entreprises sur les panneaux syndicaux. Vous savez que si vous vous syndiquez à la CGT sur cgt.fr, vous pouvez le faire. Si vous organisez collectivement, vous pourrez avoir une section syndicale, donc un panneau syndical à l'intérieur duquel vous pourrez mettre ce que vous souhaitez collectivement, ce que la section syndicale ou le syndicat d'entreprise souhaite mettre, et notamment donc on fait de l'affichage sur le sujet. On a décidé de mener une campagne au long cours sur celui-ci et puisque ça a été à plusieurs reprises évoqué dans l'émission, y compris quand c'était le plus compliqué, juste avant le vote, on a pris nos responsabilités pour expliquer que l'extrême droite c'est la pire ennemie des travailleurs, que systématiquement ils sont contre l'augmentation du SMIC, ils ne la votent jamais, mais ils sont aussi contre le droit à l'avortement et ils soutiennent l'extrême droite de la planète. C'est d'ailleurs la position de Marine Le Pen avec Netanyahou. Donc on essaie de développer des arguments simples qui montrent l'imposture sociale de l'extrême droite, la pire ennemie des travailleurs, l'ami des dictateurs. Et autour de ça, autour de la machine à café, des tracts, en écoutant les salariés. Et c'est un des éléments qui détermine le changement de vote, de discussion. Plus on discute et on échange, plus on se comprend et plus on peut sortir de ce poison de la division qui fait le jeu des patrons.
Myriam, dans la question de la lutte contre les discriminations, on voit bien qu'il y a aussi une articulation avec le combat pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Oui, tout à fait. Alors, en entreprise, les copains et copines l'ont dit, il s'agit de démonter l'imposture sociale du Rassemblement national, de démonter aussi le fait que l'extrême droite, non, n'est pas féministe. Et d'ailleurs, on a du mal à partir depuis quelques temps avec des actions violentes de l'extrême droite et notamment du collectif Némésis, ouais, qui se dit féministe mais qui utilise son féminisme pour être raciste en fait, pour dénoncer les personnes d'origine étrangère ou présumées étrangères comme étant des personnes violentes envers les femmes. Donc voilà, et moi je voudrais redire à quel point la présence du syndicalisme elle est centrale dans la lutte contre l'extrême droite, puisque l'extrême droite, et là j'ai donné l'exemple avec le collectif Némésis, l'extrême droite agite les peurs et agite les peurs de l'autre. Et le syndicalisme est un antidote à ça, puisqu'en fait il nous rapproche, il nous rassemble, et c'est ce qui, donc c'est l'enjeu, et c'est avec cette responsabilité lourde que la CGT est à chaque fois au rendez-vous de l'histoire pour combattre l'extrême droite.
Emilio ?
On en parlait il y a un an, le nouveau Front populaire naissait. La CGT a pris sa part et quelle part dans le nouveau Front populaire, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'ici, c'est de prendre vraiment position aussi ouvertement en faveur d'un camp. On est un an après. Le nouveau Front populaire a un peu fait long feu. Les partis aussi, parce que 2027 se rapproche, s'écartent les uns des autres. Est-ce que toi, tu es déçu des partis du nouveau Front populaire après l'espoir qu'il a soulevé quand même, on doit le rappeler, l'année dernière. Tu parlais de trahison juste avant. Est-ce qu'on est devant une trahison des électeurs de gauche là ?
Bah, ce que je veux souligner d'abord, c'est que le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Et c'est encore une fois très, très grave ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que ailleurs en Europe, il y a plein d'autres élections dans lesquelles il n'y a pas de majorité claire qui sort. Et dans aucun autre pays, il se passe la même chose qu'en France. C'est-à-dire, dans tous les autres pays, le chef de l'État appelle le parti arrivé en tête et lui demande en premier de tenter de constituer un gouvernement et d'aller le présenter devant l'Assemblée. Et depuis un an, Emmanuel Macron a systématiquement refusé de faire ça. C'est extrêmement grave d'un point de vue démocratique et c'est quand même très grave. Après le violent camouflet qui a été infligé à Emmanuel Macron dans la rue et ensuite dans les urnes, que ça soit encore son extrême minorité présidentielle qui soit au pouvoir et qui soit au gouvernement aujourd'hui. Et donc ça, encore une fois, en faisant cela, il déroule encore une fois le tapis rouge à l'extrême droite. Alors après, par contre, j'ai aussi un message pour la gauche, c'est que nous nous sommes battus ensemble pour l'unité, en disant face à l'extrême droite, unité. Moi, il y a un poète que j'aime beaucoup, c'est Louis Aragon, qui dit « Quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat ». C'est le poème « La rose et le réséda ». Ça veut dire qu'il faut s'unir, quelles que soient nos différences, parce que l'extrême droite, c'est trop grave pour qu'on se paye le luxe de division. Et aujourd'hui, c'est triste à dire que les manœuvres d'appareil prennent le dessus et que les partis de gauche soient centrés un peu sur leur nombril quand même à se demander qui sera candidat ou candidate à l'élection présidentielle. Nous, on a envie de leur dire c'est pas notre sujet, un bon programme qui nous ouvre des perspectives, une personne qui rassemble et on y va.
J'ai une dernière question pour toi, Sophie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la CGT pour les 130 ans qui viennent?
Bah, beaucoup de luttes, évidemment, et puis surtout beaucoup de syndiqués. Aujourd'hui, on a 600 000 syndiqués. 600 000 syndiqués, c'est déjà super, parce qu'en France, on est une des organisations qui a le plus d'adhérents. Mais en fait, par rapport à 20 millions de salariés, c'est très faible. Et déjà, avec ces 600 000 syndiqués, on fait des choses absolument géniales, incroyables. Qu'est-ce que ça serait si on était 1, 2 ou 3 millions ? Donc, c'est l'objectif qu'il faut se donner. Il faut syndiquer nos collègues, syndiquer nos amis, syndiquer nos proches et leur dire que ce qui est génial dans le syndicalisme, c'est que nous, c'est pas un engagement délégataire en fait. On ne se syndique pas pour soutenir des grandes idées, soutenir de grands tribuns, des gens extraordinaires, etc. Non, pas du tout. On se syndique pour s'organiser nous-mêmes, pour s'émanciper nous-mêmes, pour se libérer nous-mêmes, pour relever la tête face au patron et reprendre en main nos vies. Et ça, c'est super parce que c'est hyper émancipateur et ça permet de reprendre toutes les choses en main. Donc syndiquez-vous, organisons-nous et reprenons les choses en main. Je voulais finir par revenir encore une fois sur l'action des dockers de Fos-sur-Mer et des portuaires de Fos-sur-Mer parce que je trouve qu'elle est emblématique de la force du syndicalisme. L'histoire, c'est quoi ? C'est des gouvernements occidentaux qui font l'autruche et qui refusent d'agir face à ce qu'aujourd'hui on peut nommer un génocide. Et l'histoire, c'est des travailleurs et des travailleuses qui s'organisent pour, à partir de leur travail, empêcher cette tuerie et ce massacre. Et donc, les dockers et les portuaires de Fos-sur-Mer qui ont refusé de charger les armes pour Israël, d'abord ça, on les applaudit. C'est en train de se passer, ça, c'est le cas dans tous les ports français, donc je le dis. Il n'y a aucun chargement d'armes qui pourra quitter la France. Les dockers et les portuaires n'en laisseront aucun partir. Mais ensuite, ce qui est super, c'est que cette action, elle fait tache d'huile, et elle fait tache d'huile par en bas. C'est ça qui est super dans le syndicalisme. Qui est-ce qui a embrayé derrière ? Les dockers italiens à Gênes. Qui est-ce qui a embrayé ensuite ? la CGT des douanes qui a interpellé Bercy en disant « il faut empêcher les exportations d'armes ». Qui est-ce qui a embrayé aujourd'hui ? Les travailleurs et travailleuses de l'aéroportuaire à Roissy qui ont dit « nous ne voulons pas charger d'armes dans les avions à destination d'Israël ». Et donc, aujourd'hui, je lance un appel. Nous pouvons, chacune et chacun, à partir de notre travail, je suis sûre, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour stopper cette folie meurtrière et ce génocide. Par exemple, les salariés de ST Microelectronics, c'est une entreprise qui fabrique des puces, ont interpellé leur direction en exigeant que l'argent de leur épargne salariale ne serve pas à financer les armes israéliennes. Voilà le type d'action que nous pouvons toutes et tous mener dans nos entreprises pour répondre à l'appel des dockers et des portuaires de Fos-sur-Mer.
Merci beaucoup Sophie Binet. Un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Binet. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Un grand merci à Sophie Binet, à Thomas Vacheron, Myriam Deptiri, Maryse Dumas, Aymeric Mougeot, Bolchevik. Merci beaucoup à Safia et à Emilio. La prochaine émission Backseat aura lieu le 23 juin. Ce sera le lundi 23 juin. Une émission spéciale sur la cybersécurité. La suite des 130 ans de la CGT, mesdames et messieurs, ici en direct sur le parvis de la mairie de Montreuil. À 20h, les luttes sont à l'honneur avec les salariés de Verbaudet, les travailleurs sans papier, la fonderie de Bretagne et bien d'autres. Et puis ensuite, il y aura des concerts à Stéréotype, Ben PLG, Petite Gueule, Planète Boom Boom. Merci à tous, bonne soirée, c'est la fin de cette émission. Ciao, bye.